Enfin, non, mais c'est vrai que de l'autre côté, il est... Alors, effectivement, il y a l'inverse. Il y a le
grand en face qui agit aussi. Il y a le grand en face qui agit aussi.
Ah oui, oui, ouais,
bien sûr. Mais les deux agissent, quoi. Il n'y a pas que... Enfin, la victoire n'est pas
totale. Le ciel agit aussi.
Ouais. Le ciel agit aussi. Et donc, alors peut-être, effectivement, il y a des conséquences, il y a des résultats dans
l'autre. Et le roi, c'est pas intéressant. Ah, j'étais mal encore. Hein. Vous saviez que c'était moi. Pourtant, ça fait 3 ans que j'en entends parler.
Bien
c'est
bien
c'est moi le roi. Ouais. Je l'appelle Henri. Henri. Il en a rencontré Pétel, je crois bien, non.
Ouais.
J'ai rencontré un 29e.
Ça va.
Ça monte, c'était 24.
Moi, quand je l'ai rencontré, il dit le roi dès que je sais qui c'est.
Je vais le présenter.
Non, c'était horrible, ce mec.
Je vous présenterai.
La
prochaine fois. Ah ben là,
il y avait celui, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a acheté sur cette de la mer, qui est très gentil, qui est pas...
Important, c'est moi. Mais je l'ai vu grandir.
Disait, je vais peut-être être le maire.
Ah ouais.
Qui est sous couvert, qui disait qu'il était le roi. Un gars très très ordinaire. Il balançait ça tranquille, je ne sais plus son nom.
Il y en a eu qui sont venus sur son site et qui ont dit, Viens Christ, c'est un ami qu'on a
tout à fait.
Il a un blog qui s'appelle Viens Christ, c'est les gars qui sont venus sur le blog lui dire, c'est moi le roi à partir d'aujourd'hui.
Il faut
que tu m'écoutes, quoi. tu deviens mon disciple, ça il claque.
Alors bon, non, le grand monarque, c'est très à la mode. Hein. À l'époque, les hôpitaux psychiatriques, il y avait plein de gens qui
disaient... C'est le roi.
Non, qui disaient, je suis Napoléon.
Oui, oui.
Alors, dans les hôpitaux de fous, d'ailleurs, on a fait des bandes dessinées.
Ouais.
Les hôpitaux psychiatriques, il y avait plein de gens qui disaient Napoléon.
Et pourquoi Napoléon? Donc,
il avait pas de cheval.
Eh bien, aujourd'hui, hein, non mais c'est vrai, quand j'étais gosse, c'est les 50, c'était ça. Les hôpitaux de fous, l'image d'Épinal, c'est le gars qui se prenait pour Napoléon.
Quoi. C'est alors, vrai, ouais, ouais. Napoléon, ouais, c'est vrai.
Tintin et Milou, il y a toujours un mec qui se prend pour Napoléon.
Des influences comme ça.
Hein mm-hmm. Et bien ça, là, maintenant...
La mode est au grand monarque.
Le gars, les gens, les cathos, enfin bon, disent le roi, c'est peut-être moi. Hein. Et alors, ils se posent la question, ils disent, Seigneur, c'est pas possible que ce soit moi quand même, c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit moi. Et puis le ciel lui répond, téléphone direct évidemment, si c'est toi.
Bon, je vais voir le père. Non,
enfin, il me faut quand même des confirmations. Et il y a des confirmations, mais il faut une apparition. Il y a une apparition. Carrément. Il me faut un miracle. Il y a un miracle.
Ça vous l'avez vu.
Presque à chaque fois. Mais oui, parce que sinon, il y a tout converge, tout.
Mais c'est métapsychique.
Hein?
Oui, bien sûr. Et ça va venir au niveau du métapsychique qui va le
coucher. C'est l'ironie du diable, moi j'appelle ça. Les signes, c'est ça.
Allez-y.
Je sais pas. On est tous près de prophète et roi alors.
Je dis la dernière fois, il y a 3 ou 4 semaines, et je dis.
Il y a 3 ou 4 semaines.
Il est arrivé chez moi, là, à Sassac. Et c'est hallucinant parce qu'à chaque fois, ils ont des signes, prodiges, miracles pour confirmer. Et c'est des cathos qui se confessent, qui prient, qui disent le chapelet, qui disent moi je c'est pas possible, c'est pas possible. Si continue, il faut pas que tu sois ti, ta 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 ta. Et puis effectivement, et puis quelque part par leur ça peut arriver que par une intervention ou je sais pas quoi ou par une providence, ils fassent quelque chose qui fait tourner quelque part les événements dans une direction. S'ils n'avaient pas été là, ça n'aurait pas pris cette direction. Il y a quelque chose de vrai en tout cas. Il y a toujours un petit quelque chose de vrai ou il y a un petit quelque chose. C'était mon 29e qui est venu m'apporter cette confidence là. Le 29e. Mais moi je rigole pas parce que je dis bah oui. Non, je regarde pas de près non plus, je dis continue, puis c'est tout. Continue, je vous en prie, excellence.
Majesté.
Non, dis excellence au roi.
Ah oui.
Dis excellence.
Mais du coup, donc, comment vous désamorcez le truc, ça foutra l'air le mec parce que.
Non, mais ça ne fout pas en l'air, il le sait très bien, il n'est pas idiot. C'est des gens qui ne sont pas idiots, ils savent très bien que... Oui, quelque part, il faut qu'on fasse... Quelque part, il faut qu'on... Quelque part, et peut-être qu'il faut qu'il y ait le roi, donc... Et ça fait partie de nous, hein, en tout cas... Petit roi fraternel de l'univers en nous. Et c'est pas le ciel qui va te faire aller dans le sens contraire, quand même. On doit prendre autorité. On a un ministère de plus en plus, même politiquement, même sur le plan de la politique, du fond de la politique, hein, du fond mystique de la politique. Il y a en dessous des événements, il y a un grand courant au fond. Un courant de fond qui vient de l'Église catholique et qui est dans cette dimension royale. La dimension royale, c'est-à-dire de sa sainteté, parce qu'on dit roi. La seule chose, c'est qu'on oublie aussi de dire, c'est que quand on dit qu'on est prêtre, prophète et roi, ça ne veut pas dire roi avec la couronne ici, toc, et l'étendard. Hein. Action française, j'ai un cheval blanc et en avant.
Couronne.
Je suis le roi, c'est pas ça, je lui vins. Merveilleux. Voilà, donc c'est pas ça. Là, quand on dit roi dans la pensée catholique, ça veut dire sainteté. Donc quand on dit on a une vocation de prêtre, prophète et roi, ça veut dire qu'on a la vocation d'être un saint, d'être le saint. Enfin, si c'est possible, que la sainteté du roi du ciel et de la terre, c'est-à-dire de Jésus, nous envahisse complètement. Voilà, on a une fonction royale, c'est-à-dire on doit aller jusque dans le Saint des Saints pour que l'émanation de la sainteté du Christ nous envahisse même la moindre matière vivante de notre corps. Et à ce moment-là, on avance. Et bien, tous ceux qui vivent ça, c'est une lame de fond. Oula.
Oui, la lame est passée.
C'est une lame de fond. Si elle est unanime, si elle est éclairée, si elle est dans la lumière, si elle obéit à la volonté de Dieu, si elle est contemplative, si elle est en même temps sacerdotale, si elle est prophétique, eh bien ça change les événements de l'histoire. Alors on peut se réveiller la nuit et avec ça, prendre autorité et effectivement, boum! Les grands dirigeants, comme tu dis toi, le complot, quoi, le complot, eh bien il en prend plein la tronche. Et c'est pas ce qui lui arrive. Comme dans un dessin animé, ça part comme ça, plus rien. Pourquoi? Parce que le roi, la nuit, prend autorité. À la manière de Saint-Hilde de Garde. C'est Saint-Hilde de Garde qui nous a appris ça. Le pape nous a demandé de faire ce que disait Saint-Hilde de Garde. Ce que Jésus a expliqué à Saint-Hilde de Garde. Voilà, donc on le fait, on sait qu'on peut faire ça depuis...
Depuis 2012, le 7 septembre 2012.
Proclamation du doctorat.
7 septembre 2012.
La veille de la nativité de la Vierge.
On est sauvés, les jeunes sont là quand même.
De quel doctorat parle-t-on?
Doctorat de
le pape a déclaré Saint-Hilde de Garde docteur de l'Église 888 ans après.
D'accord.
Quelque part, donc c'est l'interface du prophète Élie.
D'accord, oui.
Et une fois qu'il a dit ça, le 8 septembre, tout le monde sache le 8 septembre, pour la nativité de la Vierge, c'est-à-dire pour la fête de la Santissima Bambina.
Ah oui, c'était ça. Oui.
La Santissima Bambina, c'est le 8 septembre. Hein.
Ah bon?
Eh oui, c'est la nativité de l'Immaculée Conception.
Ouais.
Et voilà, donc ça, c'est quand même... donc ça désigne la compassion... La compassion native. La compassion native. Et rédemptrice que rédemptrice de Marie. Plus tu t'approches en Marie de son assomption, que tu descends de son assomption, c'est une espèce d'ascension descendante. Plus tu pratiques l'ascension descendante, le chemin croix descendant de Marie, plus tu t'approches de sa conception, plus elle est co-rédemptrice. C'est ce qu'expliquait le Père de Haut. Vivre en Marie, c'est vivre de cette chemin de croix descendant, de cette ascension descendante, fulgurante, jusqu'à sa conception. Mais dans sa conception, il y a tout ce qu'il y a dans sa gloire, là-haut, dans sa l'Assomption, dans sa dormition, et on redescend jusqu'à sa nativité. Alors évidemment, la porte d'entrée, c'est ma Santissima Bambina. À ce moment-là, après, on rentre dans l'océan de sa conception. C'est l'instant de sa conception. Et là, on trouve, on peut trouver, on a une porte d'entrée dans notre propre conception et dans cette espèce d'habitus surnaturel, pneumato-surnaturel, très exactement, de notre conception avec elle dans l'indivisibilité vivante des deux. Non pas confondues, non pas fusionnelles, mais quand même distinctes.
Les deux.
Mais pas séparées.
Des deux. Qui les deux?
Ma conception et celle de l'Immaculée Conception.
C'est ça, d'accord.
Ça, donc, c'est la petite clé qui est donnée par le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, et qu'on essaie de mettre en route. Donc, n'oublions jamais. Bien sûr, moi, j'ai une 29, je rigole avec ça, mais je rigole pas. Je rigole pas parce que la plupart du temps, c'est des gens sérieux. C'est des gens qui mettent la gomme, au point de vue prière, culture. Responsabilité politique aussi. Ils sont quand même encouragés. Évidemment, il y a de l'ivraie et du bon grain. Dans l'univers intérieur qui est le nôtre, il y a beaucoup de bon grain, mais il y a aussi de l'ivraie. Mais il ne faut jamais regarder l'ivraie, il faut toujours regarder le bon grain. Parce qu'on devient ce qu'on contemple. Et à ce moment-là, on avance. Moi, j'ai jamais été très choqué de ça. Quand c'est Régis, moment, il a eu cette. Et pourquoi pas moi, là. Bref, il y en a qui sont passés par là, ils se menaient un. Je veux pas le décourager, mais du coup, comme je l'ai pas découragé, il a fait des interviews sur le méchop. Tous les entretiens avec un entretien du père Nathan. Et du coup, ça sert. Hein.
Ils sont
génial. Non, mais c'est ça c'est bien.
Bon, maintenant il arrive bien quand même. Ça va, vous l'avez.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, faites-nous, puisque vous vous présentez. Donc, voilà, très bien. Vous habitez où?
À Paris.
Vous êtes parisien?
Au Palais Royal, enfin quasiment.
Au Palais Royal. Voilà, le Palais Royal.
Ah bah voilà,
c'est vous, et vous sentez une vocation pour dégoupiller, comme on dégoupille une grenade, le complot international. Comment ça? Vous n'êtes pas au courant qu'il y a un complot international? Le complotisme,
ça
vous dit rien, le complotisme, ça vous dit rien du tout.
Oui, parce que c'est le vrai complotisme, pour le coup, pas le faux complotisme.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, un petit exposé, mais tranquille, hein, pas trop. Non, c'est quoi le complotisme? C'est quoi? Les gens disent, vous êtes des complotistes, c'est quoi le vrai, le faux contre? Vous pouvez pas nous faire un petit truc là-dessus, là?
Si,
c'est pour ça,
ça
que c'est...
Ça vous intéresse, ouais. Ouais,
bien sûr, ça nous intéresse. Nous, on n'y comprend rien, complotisme. On n'y comprend rien. On dit, vous êtes complotiste, on entend partout. Ouais, c'est du complotisme, c'est du machin, c'est quoi le vrai complotisme, le faux complotisme?
Ouais, ouais. Ben justement, tout dépend.
Ils existent ou c'est la pieuvre noire, ça existe?
Ben tout dépend de ce qu'on appelle, quel sens on donne au mot. Finalement, un mot, on peut lui donner le sens qu'on veut.
Donc, voilà, ce qu'on voudrait, c'est la réalité, d'accord?
Voilà. Alors, effectivement, mais après, fondamentalement, effectivement, il y a le sens, les mots ont un sens et il y a la réalité. Après, il y a les mots, les sens qu'on veut bien leur donner. Alors, ce que je veux dire, si je devais résumer très rapidement, il y a le faux complotisme.
Oui.
C'est. Les complotistes, comme ils savent qu'ils sont complotistes et que c'est pas très bien, ce qu'ils font, ils j'imagine qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est pas très bien, ils accusent ceux qui les dénoncent de complotisme pour d'une part décrédibiliser ceux qu'ils accusent et deuxièmement noyer le poisson sur cette notion de complotisme.
Oui, bon, c'est d'accord, c'est l'esprit tordu ça. Ouais.
Ouais, d'accord.
C'est l'esprit mauvais, allez.
Et le vrai complotisme, c'est effectivement. Ce que Descartes dirait, sans vouloir tomber dans les travers dans lesquels il ne faut pas tomber, le complot judéo-maçonnique, en gros, qui est mondialiste, qui d'un point de vue temporel, effectivement, ressemble à la constitution d'un gouvernement mondial via des grands blocs géopolitiques, l'Union européenne pour l'Europe, ALENA pour l'Amérique du Nord, tout ça, sous l'égide de l'ONU, qui pourrait un jour devenir le gouvernement mondial si jamais ce processus arrive à son terme. Et à partir de là, on peut imaginer que le spirituel ou l'anti-spirituel, ou le spiritualisme, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais enfin, le spirituel inversé rejoigne ce projet temporel.
Satan, une face religieuse,
voilà, le prince de ce monde, Satan,
à la gouvernement, à la gouvernance de l'ensemble de l'humanité.
Voilà, c'est ça.
Donc pour diriger l'ensemble de l'humanité, quels sont les moyens qu'ils ont?
Ben ils ont les moyens profonds.
Mais
il y a deux grands moyens, il y a deux piliers fondamentaux, mais qui peuvent se décliner en chacun en plusieurs piliers. Il y a tout ce qui concerne la magie et l'occultisme. Et des sociétés plus ou moins secrètes
qui donnent
de l'orientation, on va dire, sociétale, sociologique et tout ça, avec qui se matérialise par le méchaume, la dépénalisation des drogues, le New Age et tout ce genre de choses, l'art contemporain, l'art moderne, tout ça, et l'argent matérialisé par la finance bancaire, qui à terme donne des corrections de route pour l'économie et par là le politique, le médiatique, voilà, et donc ces deux piliers qui se rejoignent à leur sommet donnent pour tout ce qui est l'idole argent pour l'économie et donc la subsistance le matériel quotidien, enfin voilà, tout le pouvoir politique, les médias qui influent donc sur la culture, l'identité, et ça c'est plus orienté par les théosophes, les philosophes, les occultistes,
les initiés
de très très haut grade dans la franc-maçonnerie ou dans ses différentes ramifications. La franc-maçonnerie étant qu'un terreau global, une porte d'entrée des différentes sociétés secrètes, pour le coup, alors là, de très haut niveau.
Ça, c'est sourcé, là, tout ce que tu dis, là?
Ouais.
Oui. Quand tu nous racontes des trucs que tu inventes, là, au fur et à mesure.
Non, c'est assez sourcé, ouais, vous aussi.
Parce que moi, j'aime bien avoir les sources, quand même.
Mais n'hésitez pas, Olivier, Joseph, à compléter ce qu'il dit.
Oui, c'est ça, oui.
Autrement.
Si je devais dire... si je te recommande une lecture, mais je pourrais t'en recommander d'autres, mais c'est un truc qui s'appelle écrit par un Epiphanius. Alors je sais pas si ce monsieur existe vraiment, si c'est un collectif ou si c'est une personne, mais si tu lis Epiphanius, c'est un bouquin comme ça.
Oui, j'ai vu,
il explique ça sur 400-500 pages, mais il y en a d'autres.
Il y a des vidéos aussi.
Et là, il explique tout ça.
Et où il explique tout ça en 450 pages à peu près.
Sourcé parfois.
Sourcé, référencé, tout ce que tu veux.
Toi, tu l'as lu, s'il vous plaît.
Epiphanius, je l'ai eu entre les mains, je l'ai feuilleté, c'est évident. Il y a plein de choses, mais après, toi, je sais que tu es assez spécialiste là-dedans, moi un peu moins.
Je sais pas, peut-être, ouais.
T'aimes bien ça.
Moi j'en ai lu plusieurs de ces bouquins-là.
Ah ouais.
Mais ça fait plusieurs années. Là j'en lis plus trop. Je sais pas si j'ai tout lu, mais globalement, comme j'en avais lu quand même quelques-uns, à un moment je suis passé à autre chose parce que c'est vrai qu'on se perd dans des trucs.
Bon, à partir de là, est-ce que tu fais la différence entre la bête de la mer, la bête de la terre, la bête à sept têtes et à 10 cornes, la panthère, sept têtes et à 10 cornes, et l'agneau qui a 2 cornes et qui ressemble à un agneau, et l'antichrist? Les cinq visages donc de la bête dans l'Apocalypse.
D'accord, je connais pas.
Est-ce que à partir de oui, je veux dire, parce que tu es catholique.
Identifié en fait.
Oui.
Tu es catholique.
Oui.
Donc nous on a une Bible.
On peut acheter une Bible si tu veux parce que
tu l'as pas placé.
Dans la Bible, à un moment on parle de l'Apocalypse.
Le côté du mal. Donc il l'a expliqué.
Oui, mais ce qui est en train de dire, Patrick, ça, c'est intéressant quand on est complotiste.
Vous venez pas avec nous. On le colloque.
On va voir dans la Bible, dans l'Apocalypse, comment tu vas identifier les personnages du complot. C'est là ce qu'il est en train de te dire.
Mais à la fois.
Ce que je n'ai pas encore fait, je te rassure. Toi, tu sais,
toi, Jean-Marc. Tout ce que vous venez de dire, ça évoque des choses, mais je ne pourrais pas. Je ne maîtrise pas assez le truc.
La bête à 10 cornes.
Mais effectivement, quand vous parlez des
films de bête à 10 cornes. une interprétation.
Il a fait, à partir de là, on pourrait.
Il a fait. Ouais,
moi, je peux pas. Non, mais par exemple, quand je pense à.
C'est pas mystique, matériel.
Matériel, ouais.
C'est marrant parce que. Pour
dans l'Apocalypse, vous avez cité l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, à un moment, il parle des 5 ou des 7 chevaliers de l'Apocalypse.
Les chevaux de l'Apocalypse.
Il y en a 5 ou 7, je ne sais plus.
4.
4.
4.
C'est vrai qu'il y en a qui ont
il y en a un cinquième après au chapitre 17. Oui.
Ouais, bon, mais. Et il y a dans les billets, en fait, il y a 5 billets en dollars.
C'est bon si tu causes pas.
Et certains ont dit qu'en fait, c'est.
C'est le monde qui s'inscrit là-dedans.
Voilà, c'est.
Normal, c'est les clés pour la lecture.
Voilà,
pour aujourd'hui.
C'est par l'argent, et à un moment, ça fait référence au chiffre de la bête. On sera tous marqués du sceau de la bête. Il y en a qui disent que c'est le code.
666.
Le code barre, tout ça, et qu'en fait, c'est l'argent. Et les 4 chevaliers ou les 5 chevaliers de la Coblisse, en fait, c'est les 5 têtes qui se trouvent sur les billets de 2 dollars. Il y en a un, il y a le billet de 1 dollar, de 5 dollars, de 10 dollars, de 100 dollars ou de 1000 dollars.
Ça pourrait voilà. Pas être les 5 milliardaires.
Mais après, c'est vrai que ça, je ne pourrais pas trop interpréter. Je ne pense pas être capable de pouvoir
alors, je peux donner aussi
aller jusqu'à là.
Attention.
Non. Dans l'enregistrement, on ne sait pas qui t'appelle Emmanuel, par exemple.
Alors, je connais une personne qui travaille avec quelqu'un qui est au Brésil. Bon, je ne donnerai pas le nom, mais je ne sais rien, parce que c'est une personne qui m'a vendu la mignonne. Et en fait, il travaille sur cette interprétation. Et en fait, il a montré qu'en arabe, 666, quand Saint Jean a écrit les trois lettres grecques
en araméen, ça. Ouais, en grec, d'accord.
Non,
oui.
En grec, pardon, en grec. En grec. Oui. Les trois lettres grecques, parce que moi je fais pas de grec, du latin. Mais... Donc il y a les trois lettres grecques représentent en arabe, alors je crois que c'est Allah, enfin, et ces trois lettres grecques transposées en arabe avec les mêmes signes, c'est-à-dire l'épée, ça. En fait, les djihadistes et tout ça ont tous sur le front ce signe. Donc, elle fait le rapprochement, ils font le rapprochement.
Ah ouais, carrément.
Entre
l'islam qui serait le.
D'accord.
Entre le mot, le dieu de la guerre, enfin le dieu qui a été.
Les opérations islamiques contemporaines, en fait.
Voilà, c'est-à-dire ce signe, quand Saint Jean a écrit, c'est si, c'était avec ces trois lettres grecques. Et ces trois lettres grecques, quand je pourrais vous donner le texte. Autre chose, le marché halal,
non, mais j'ai entendu pas de trucs, mais je connais pas tout ça. Enfin, c'est des choses que parfois j'entends, mais
parce qu'il est détenu par des familles de Rothschild.
La finance mondiale est tenue par. Je sais pas si Olivier confirme.
Par des Berrichons.
Voilà, par des Berrichons. Et on parle de mondial, je crois que c'est 4 ou 5 aussi. Là, hein. On parle des chevaux, c'est peut-être pas, mais bon.
Emmaüs même est tenu par.
Et alors moi,
maintenant,
c'est
Emmaüs, incroyable.
On m'a forcé à donner l'argent pour une école. Il y a une nouvelle campus, là, c'est Espérance banlieue, alors ça paraît très très bien. Oui. C'est des bons cathos.
Oui. Avec une bonne intention au départ.
Ouais. Voilà, qui taisent leur identité oui. Catho, parce que oui. Surtout pas.
Ouais, voilà, ils taisent.
Il faut respecter l'autre. Donc au nom du respect de l'autre, on tait notre identité. Donc on est déjà dans le. Comment on appelle ça dans les pays islamiques, dans le.
Le dhimmi,
ou alors
la dhimmitude.
C'est quoi ça?
Donc les bons cathos donnent de l'argent, donc on nous demande 100 000 euros, enfin on nous demandait là, 50 000 euros, 100 000 euros, etc. Donc c'est de l'argent que tu dois donner, sinon c'est pas normal, c'est pas juste.
Ouais.
Et à côté de ça, eh bien, les enfants ont le droit d'amener leur repas halal. Il y a une petite vidéo sur Maître Gims, donc avec toutes les symboliques. Il y a un petit enfant qui dit oh oui, Maître Gims, qui viennent. Et quand j'ai fait une réflexion à une amie qui ne l'est plus d'ailleurs, en lui disant t'as vu la vidéo de Maître Gims, tout ça oh, mais tu me gonfles.
C'est des symboles.
Ah oui, oui. Hein. Quoi, quand on les attaque, ils se tout de suite.
En fait, si vous regardez Espérance banlieue, Maître Gims, c'est un rappeur qui met en avant des vidéos très noires. Hein, avec, et à côté de ça, l'école Espérance banlieue, il y a eu un article dans Rouge et Noir. Très bien, c'est pour ça que ça m'a éveillé la conscience par rapport à ça. Très, très circonstancié.
Il n'y a plus aucune proposition.
Et alors,
de
l'école Espérance banlieue, donc le maire de Montfermeil, très bien, il est courageux le moine, il s'est battu pour tout ça. ça là pour essayer de ouais. par rapport à la mosquée, la faire entrer.
Ouais. Ouais.
Et
il a annulé la mosquée ou l'a fait rentrer la mosquée?
Bah non, il l'a fermé, il a empêché l'extension, bah, il a mis des conditions, il a fait ce qu'il a pu, hein, le pauvre. Mais donc le moine, il, je crois qu'il, donc il a peut-être aidé cette fondation, hein, Espérance pour Dieu, je pense. Donc moi au départ j'avais confiance. Mais donc il y a 100, faut voir que sur 102, il y a 100 élèves musulmans pour un catho et un juif. Et quand j'ai dit à cet ami, il y a une majorité de... C'est du communautarisme, quoi. C'est-à-dire, en gros, on aide les enfants et ils sont entre eux. Oh, mais non, il y en a 40%. Enfin, c'est dans le délit. Voilà. Et à un moment donné, on devait dire une messe pour une association dans ma paroisse. Je ne sais pas pour qui est dite la messe. Je me sentais pas bien depuis des mois par rapport à ça. Parce qu'on voulait me forcer, on me disait oui, il faut que tu donnes, c'est pas normal. J'ai dit écoute, je donne qui je veux, si je veux donner au chrétien d'Orient, je donne au chrétien d'Orient. Donc je m'en confesse, je discute avec le prêtre de ma paroisse. Et le soir même, la messe était pour cette association. Je me suis demandé si j'allais communier ou pas la prochaine fois.
Ah oui, c'est grave ça.
Mais... C'est le méchant. Hein.
Et ils ont dit une prière pour cette association.
Ça pourrait.
Mais c'est bien caché. Ils ne se sont pas renseignés comme toi.
Donc, en fait,
mais non, et je. Et plus ça allait.
C'est comme la laïque pour tous, c'est comme.
Je récoltais les
comme
éléments.
Comme tout, maintenant, les catholiques ne doivent plus dire qu'ils sont catholiques. Ils doivent faire le bien sans dire qu'ils sont catholiques.
Ah, ouais, j'ai perdu temps.
Donc, l'intention, elle est bonne, parce que c'est d'aller dans les quartiers pauvres. Tranquillement, mais leur donner une vraie instruction, une vraie éducation, et au bout.
Maître Guinicien aussi.
Il n'y a pas de proposition de foi, rien. Il n'y a rien, absolument aucune. C'est quoi ? Il n'y a pas de proposition de foi, là, ces écoles.
Non, et alors ça va être le modèle de la France maintenant. Espérons que Dieu, ils vous en mettent partout.
Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais.
Alors, autre truc, Strasbourg, on l'a déjà.
Ils ont utilisé les jeunes cathos à ne pas faire d'évangélisation.
Et maintenant, ils veulent mettre en place de l'enseignement religieux. Donc, il ne faut plus d'enseignement catho à des cathos. Donc, ça ne se peut plus, ça. C'est trop.
Ça.
Voilà. Donc, il faut un enseignement multireligieux. Donc, il y a le prof de mon université.
Ah oui, c'est. On va devenir l'ordre mondial. C'est l'ordre mondial.
Qui va mettre en. Il a mis en place.
C'est le début de l'ordre mondial.
Et ça, vous le gardez pour vous, parce que moi, je suis encore étudiante là.
Dans les collèges, ils ont déjà mis ça en place depuis 10 ans.
Oui, c'est ça.
En 6e, rentrant en 6e sur leur programme, ils ont fait
voilà.
Une
et alors, bien
année.
Évidemment,
attends, qu'est-ce qu'ils disent alors
en fait.
C'est son métier là.
Non, c'est pas mon métier. C'est...
Si.
Donc, ils partaient sur les bases à expliquer les dieux, différents dieux, si c'était monothéiste ou pas, et l'aboutissement de la religion par rapport vraiment à des écrits très, très réduits. Donc c'était très sélectif, mais ils effaçaient énormément le côté catho pour justement monter les dieux d'autres religions pour faire sous forme de connaissance, pour la culture générale. Mais sous couvert de culture générale, il y avait un déséquilibre. Il y a une dizaine, une
à partir
dizaine
de quel âge?
6e, c'est 10 ans.
C'est 10 ans.
Donc il y a une bonne dizaine d'années où ils avaient fait ça dans le programme. Enfin, j'en ai pris connaissance il y a une bonne dizaine d'années.
Alors, c'est vrai qu'au niveau universitaire, on étudie les religions anciennes, mais c'est-à-dire par rapport au parallélisme avec la Bible. Par exemple, on s'entend qu'il y a des tablettes sumériennes qui correspondent à l'histoire de Moïse. C'est-à-dire que c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y va dans un arche, 40 jours, ou 40 jours, il y a une colombe. Ça, il n'a pas le même prénom, mais c'est exactement la même histoire.
Beaucoup plus sélectif et sans grand fondement. C'était des grandes lignes. On ne rentrait pas du tout dans le détail. On donnait une mouvance.
Tout dépend comment
c'était. Voilà. Il y avait une mouvance, mais c'était à l'époque, je crois, où ils ont mis pas mal de ZEP en route et tout ça. Et ça allait un peu dans une mouvance.
En fait, le mot d'ordre dans le secondaire, c'est d'étudier ce qu'on appelle le fait religieux. C'est-à-dire que tous les programmes se mettent à distance de ce qui est religieux et on le regarde. Non, c'est le philosophe qui va regarder l'humanité dans sa religiosité et donc on peut du coup la disséquer, la trancher et mettre tout sur le même plan d'existence, d'égalité. Mais ce sont que des choses que l'on regarde, c'est une chose. La religion est devenue une chose. Elle n'est pas l'intérieur de soi, elle est un objet comme les bras d'ailleurs, c'est ce qui sont là. Mmh. Et donc ça s'appelle comme ça, on appelle ça l'enseignement du fait religieux.
Mmh.
On donnait ce nom-là. Mmh. C'est bien, bien travaillé.
Et pour respecter la liberté de ceux qui...
Voilà, mais du coup tout est absolument équivalent, ça n'est qu'un phénomène, culturel de tout humain, comme n'importe quel phénomène culturel, comme le cinéma.
Mais ça va plus loin, parce qu'à l'UNESCO à Paris, il y a une association qui a été fondée par un Anglais et un Russe qui existe. Et ils ont été fondés par des gens très importants d'un point de vue politique pour leurs pays respectifs, où ils rassemblent tous les représentants des différentes religions ou des croyances plus ou moins mystiques, et ils essayent de faire une espèce de religion mondiale en piochant un peu tous les éléments de toutes les différentes religions, de toutes les
courants. En espéranto
Alors espéranto c'était c'est assez ancien. Parce que là c'est actuel, c'est à l'UNESCO, à l'ONU.
Promu par le Lucy Trust.
Probablement.
Donc la religion mondiale est en train de se fabriquer.
Ah oui, j'avoue que moi j'ai assisté à une de leurs séances une fois pour des raisons
pyramide. C'est une top. Guillaume, c'est une top qui est venue chez nous. Il a participé.
Non, je
ne
pas. J'ai pas participé.
Attention, on va l'attacher.
Non mais
on va l'attacher. Attention, on va appeler le prophète.
J'ai assisté effectivement à un truc comme ça.
Ah oui?
Et ça, parce qu'en fait, moi j'ai fait apprendre aussi l'artisanat français en Russie. Et ce projet était dans le giron était couvert donc par un politicien russe de très haut niveau. Et c'était lui qui était un des deux co-présidents de ce truc-là. Et il nous avait reçus en rendez-vous à l'UNESCO à la fin d'une de ces réunions. Et il nous a dit bah, venez à voir, comme ça vous assisterez au truc. Et donc on avait vu, donc on était dans le public et on a vu ce qui se passait. Et après, effectivement, il y avait des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des bouddhistes, des musulmans, des juifs. Non, il n'y avait pas de juifs, je crois déjà. Il y en avait des juifs. Mais des animistes, enfin plein de gens. Ça venait du monde entier apparemment. Effectivement, chacun faisait... Et puis il y avait un mec qui notait tout ce qui se disait là. Il disait, ah oui, vous avez dit ça, mais vous, dans votre religion, vous aviez parlé de ça un jour, est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre les deux? Et petit à petit, ils essayaient comme ça de tout lier, et en gros, de passer à la
boulinette,
pour respirer, pour ressortir un bloc un peu commun. Mais ça, c'est... Et alors là, pour ce qui est mal les sources, je te renvoie à Saint-Yves d'Alvèdre.
Pardon?
Ah bah évidemment.
Comment?
Je sais pas si tu connais Saint-Yves d'Alvèdre, qui a écrit quelques bouquins à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Saint-Yves d'Alvèdre, qui n'est pas très
un
catholique.
Un complotiste d'avant-garde.
Voilà, c'est ça. On peut l'appeler comme ça.
A-L-V-E-Y-D-R-E.
Voilà,
il faut qu'il y
ait un nom. Il faut pas lire, hein.
T'as tous les moines, les vénés prêtres et tout qui viennent se réunir là. Hein? La pyramide. La pyramide
de
Révan ou un truc comme ça.
Je voudrais dire quelque chose de parce qu'on parle d'horizontalité, des religions se valent, d'accord, mais est-ce que il n'y avait pas une base commune qui s'appellerait la capacité de réceptivité de lumière? Pourquoi pas l'intériorité ontologique,
le divin qui est en nous,
de la memoria dei qui est présente dans chaque être humain, et que ça c'est indestructible même à l'horizontalisation de toutes les religions en les mettant sur le même plan et en se mettant non plus sous l'acte pur de Dieu qu'on constate avec notre intelligence, mais en se mettant à la place de l'acte pour en fait faire une unité. Mais finalement, si on fait ça, si on regarde les religions dans un seul regard, bah, ça rejoint la réalité qu'on est substantiellement... Il y a une unité du genre humain, quoi. Mais pour qu'elle soit véritablement...
Une unité originelle du genre humain, dans la memoria dei, la lumière d'innocence. Mais,
du coup, il y a...
Cette lumière d'innocence qui est une liberté, qui est... divine et en même temps humaine, mais d'abord divine et ensuite humaine. Et ça, c'est le point commun de ta nature humaine tout entière, et qui est l'origine de toutes les manières ensuite de s'exprimer. Si je veux m'exprimer à partir de là, de manière tordue, ça va devenir Karl Wiesner, le père adoptif de Sarkozy. Si je veux le faire d'une manière qui parle, si je veux faire d'une manière qui est Guénon, si je veux le faire d'une manière qui est pas tordue, à ce moment-là, je suis dans le paradis marial immaculé d'Élie le prophète.
Donc il faut une formation béton, mais en soi.
Il y a une base de départ qui est donnée. Il y a une base de départ qui est donnée, qui est la même pour tout être humain, c'est ça que tu veux dire, et qui explique la structure profonde de toutes les formes religieuses du monde.
Elle est où,
mais c'est pas parce que... Pardon ?
Elle est où, la base ?
Quoi, la base ?
Mais je peux... Ouais.
Non. Ici, je te regarde.
Mais il y a bien un début.
Voilà la base.
Non, mais le début de la base.
Allez, regardez.
Non, mais...
La cellule.
Oui, mais...
Elle est à la base, le temple.
Il y a les 100 000 milliards de cellules, mais il y en a bien une,
le
départ.
Ben oui.
Le temple du Saint-Esprit, bien sûr.
Donc ça sera fait en vérité s'il y a une... Si on tranche sur la question du commencement de la vie humaine,
ça, ouais.
De l'acte créateur de Dieu. Donc on peut supposer que oui, c'est mauvais. Il y a une contrefaçon possible, il y a une caricature possible de l'unité du genre humain. Mais que quasiment de manière parallèle et simultanée, il y a une unité possible du genre humain qui peut être faite vers une véritable finalité divine.
Et ça, c'est la Troisième Guerre mondiale.
Oui, mais nous, on l'empêche, cette Troisième Guerre mondiale.
On les empêche, eux, de prendre le terrain.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, on les empêche. Donc, il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale.
Elle est en cours.
Elle n'aura pas lieu ni aujourd'hui ni demain.
C'est ce que je dis. Donc, pour l'instant, ça n'avance pas.
Tout recule.
Ce qu'ils veulent faire, on la bloque.
C'est-à-dire, on prend la place.
Mais ça restera un verre dans le fruit qui va se déployer.
Quelque part... je suis pas toujours, je me sens pas toujours à l'aise dans un monde manichéen, quoi, le blanc, le bien à côté. Enfin, bien sûr, c'est sûr qu'il y a je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des puissances qui veulent s'opposer, voilà. Mais alors, je connais quelqu'un qui est à la fois catholique et à la fois engagé dans une structure maçonnique. J'ai discuté avec lui. Non, mais c'est pour donner son point de vue.
Ouais. On connaît, hein.
Non, mais pour vous donner son point de vue, en fait, il a l'impression qu'on... Bon, l'église catholique, parfois, on est mouton, pas le droit de réfléchir, pas le droit de... Enfin, voilà, bon, il y a un côté... il y a un côté, justement... Si...
Dogmatique.
Non, mais même opposé à la vérité, c'est-à-dire en gros, c'est superficiel, le côté... C'est quelqu'un de très intelligent. Voilà,
exotérique.
Et moi, je ne juge pas, parce que quelque part, je lui dis, écoute, à un moment donné, est-ce que tu sauras revenir en arrière? Si, à tel degré, on te propose ça, est-ce que tu sauras revenir en arrière? Il me dit, oui, je suis libre,
Oui, mais tiens, il va voir ce que c'est.
Et il me dit, moi, il n'y a que... C'est simplifié, il n'y a que 5 degrés.
Non. Moi, j'ai un de mes amis qui était dans le transport avec moi et qui avait même un rôle important chez Sagatron. Et il me dit toujours, on me propose d'être franc-maçon. Alors je lui avais dit tout de suite, surtout n'y va pas, tu n'y vas pas, rien du tout. Et il y est allé. Et donc on se voyait tous les mercredis, on déjeunait ensemble. Moi, j'étais directeur des transports maritimes et avions de Sagatrans. J'avais plein de portes qui se fermaient. Enfin, il n'en est pas question. Et dès que j'étais franc-maçon, toutes les portes s'ouvraient. Il me racontait, toutes les portes s'ouvraient, tout de suite avec la poignée de main et tout ça. Et puis tous les jours se passaient et tout. Et puis un jour, il me dit, de toute façon, t'inquiète pas. Je suis dans une branche catholique de la franc-maçonnerie.
Ah bon, je garde le contrôle.
Alors, je peux dire que Gilles, ça n'existe pas. Tu verras de toi-même. Puis petit à petit, il me racontait. Alors, normalement, il n'a pas le droit de raconter, mais comme on s'entendait bien. Moi. Et un jour, il m'a dit, j'ai vu le Mont-Saint-Michel, mais pas comme vous le voyez. Alors, je dis,
dit comment ça ah bah oui, moi j'ai vu les catacombes. On rentrait dans des lieux du Mont Saint-Michel que personne ne connaît et on faisait des messes. Je dis mais tu faisais des messes comment ça? Avec les francs-maçons, il y avait des cultes, des prêtres et tout. Ah non, c'est spécial et tout. Puis après, je lui dis, mais c'est pas des masses noires. Ils faisaient des masses noires dans le Mont Saint-Michel. Et ça a duré. Il est resté 7 mois.
Puis après, la paix.
Et après, il m'a dit, non, j'ai abandonné, parce que je suis en train de faire des trucs pas possibles. Je leur ai dit que j'avais trop de travail et tout. Il a mis à la porte de Sagatran, c'est pas tout de suite, les portes et tout. Et il m'a dit, j'ai eu vachement de mal après. Alors, faut dire. N'importe qui est franc-maçon, ils sont liés. Ils ont intérêt à se faire, comment on dit, là, L'exorciste, tout de suite, hein. Puis un vrai. Hein.
Mais moi, j'ai soigné, juste avant sa mort, Lucien Coudert, qui a été maire de Castres et qui a été député, après tout ça. Je l'ai soigné, juste avant sa mort. C'était affreux. Je faisais les nuits, il était lubrique, il voulait toujours m'embrasser ou faire des choses. Je ne pouvais pas le mettre dans son lit, parce qu'il était gros et costaud. Et dans cette maison, quand je montais, il y avait ça, il avait une vieille bonne. Et je me rappelais que j'avais un peu de chercheur. Et quand j'allais à la salle, j'étais 8 jours, je crois, peut-être 15. Et sa fille adoptive trouvait que j'étais allée moi faire des tenues avec mon tricot, parce que je sais qu'on a mis, on passe pas son temps à mettre la personne dans son lit, sinon on la met à l'hôpital. Donc elle avait vu ça, elle avait trouvé ça pas bien du tout.
Ça tient réveillé
pour
toi.
Ça tient réveillé. Donc elle m'a mis dehors, moi j'étais ravie, et je suis retournée à mariage chez mes enfants. Et après, 8 jours après, elle m'a réclamé, parce qu'elle avait personne qui voulait venir.
Non, fallait pas venir.
Et sa rue, il y a toute une rue de Castres qui s'appelle Lucien Coudert.
Bon, c'est un peu... Ouais. C'est un peu...
Gris.
Mais alors, pour répondre, parce que pour rebondir, tu disais, c'est manichéen. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ce qui est manichéen, c'est le diable lui-même. C'est lui qui divise. Mais l'unité est aussi... De toute façon, c'est le principe d'unité qui régit le monde, que tous ceux qui cherchent à s'y opposer sont ceux qui complotent.
Non mais par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'Eucharistie, je me suis rendu compte là, ces dernières années, qu'en fait, vraiment l'importance de ce qu'on fait là, l'échange entre le monde, enfin nous, parce qu'on bosse, parfois il y a des choses qu'on fait remonter, c'est ce qu'on fait là, des choses qu'on fait remonter du monde, l'échange avec le prêtre qui peut remettre, et nous-mêmes qui remettons avec le prêtre ce monde dans l'Eucharistie, c'est source de grâce. Enfin moi, personnellement, j'ai expérimenté le fait que souvent l'Esprit-Saint, il agissait quand il y avait cet échange, quoi. Mais j'ai l'impression que, alors, si c'est trop la cité, le monde à côté, et on n'en parle pas, ah ben nous, c'est un peu augustinien, quoi, la cité de Dieu, et puis nous, on est la cité. Et puis le monde, c'est le monde, paf, c'est le monde, donc voilà. Tout travail, ta librairie, ben non, c'est le monde, donc voilà. On s'en occupe pas, alors.
Je ne sais plus quelle est l'encyclique de Jean-Paul Dieu. Il dit ceci, il dit la tentation de l'homme consiste à considérer que la relation de l'homme au monde et de la nature humaine à l'homme lui-même. Et d'ordre binaire. Binaire. C'est yin, yang. Oui. Mal, bien, t'as-tu oui. Parce que la féminin, oui. Couple. C'est une grave erreur de l'homme. L'homme, dans la relation qu'il a avec l'unité de toutes choses, est une lumière de sponsorité à l'intérieur de l'innocence de l'homme dans le Christ. Et dès que tu parles de complotisme, effectivement, tu es complètement dans la dialectique. Et dès que tu parles de voilà, et Alain Soral avec Dieudonné, ils veulent faire un grand parti politique là, depuis trois semaines, un mois, je ne sais plus combien. Bon, voilà, et il faut que la France soit religion d'État, catholique, bien sûr. Alors que l'Église a toujours dit qu'il ne faut pas qu'il y ait religion d'État. C'est que dans l'islam qu'on dit qu'il faut que ce soit la religion d'État.
Il n'y a plus de liberté si c'est une religion.
Surtout ce matin.
Tandis que là. Et donc, non, c'est la sponsalité. La République doit disparaître, s'effondrer, et la sainteté sponsale gouverne la France. Et gouvernant la France, le nouvel Israël de Dieu est là, et pour ça, bien sûr, il faut bien sûr qu'il y ait un courant profond.
Précurseur,
nocturne, prophétique, incarné. Souterrain, mais massif en même temps, puisque c'est lui qui emporte l'immense majorité du nombre d'êtres créés par Dieu vivant dans ce monde. Donc ça veut dire qu'il faut emporter tous les enfants avortés.
On sent que ça commence quand même. On a l'impression.
Et avec ça va soulever comme ça, tu vois, tu as 200 milliards d'enfants avortés, tu te rends compte, depuis 1970. Ah mais tu réalises qu'à côté, au-dessus, là, au-dessus, c'est 200 milliards. T'as 7 milliards seulement d'êtres humains sur la Terre. Voilà, d'accord. Et puis dans ces 7 milliards, alors là, évidemment, il faut compter, hein, j'ai pas besoin de faire le calcul, mais vous imaginez que ça fait pas un milliard de catholiques, hein. Bon, un milliard un peu plus de catholiques. Mais sur ces catholiques, il y en a combien qui sont en état de grâce? En France seulement. Ah, un jour j'ai fait le calcul. Combien il y a de catholiques en France? C'est-à-dire la tête de pont, quoi, de l'Église catholique mondiale, pas du corps mystique de l'Église de Jésus sur la Terre. Il y a combien de catholiques en état de grâce en France? Je ne sais plus comment j'avais fait le calcul, hein, mais on ne dépassait pas 2000. Hein. Bon, avec ces quelques-uns, quand même, Ignace Saint-Père, dans le fruit des sacrements, vivant complètement de l'avertissement dans l'Immaculée Conception, en Pentecôte, pour l'ouverture du monde nouveau dans la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, en contact avec cette immense masse, eh ben, regarde, tu soulèves, moi j'aime bien les dessins animés, tu soulèves cette espèce de masse immonde là, de 7 milliards de connards, et avec un souffle comme ça, celui du Saint-Esprit, et là, tous ces 7 milliards-là,
submergés
de goudron, de miasme, de filasserie, de miasmerie, de vomiserie, de cataleptée, de sonorquerie, etc. Ça fait une espèce de feu d'artifice, ça part en milliards de milliards de milliards de milliards de copeaux qui redescendent, et au fur et à mesure qu'elles redescendent, eh ben, ça fait un peu comme la neige, ça fond, et quand ça arrive au sol, il n'y a plus rien.
Et les milliards d'âmes, là,
voilà ce que c'est. C'est un résumé plus imagé de la phrase du Saint-Père. Le monde binaire, vous voyez le monde binaire. Alors, à chaque fois, le monde binaire. Mais non, le monde binaire, non, il n'y a pas de monde binaire. Le monde binaire, c'est imaginatif.
C'est une quiddité qui est même pas...
L'intelligence, dès que tu es dans une intelligence humaine,
ça,
contemplative, si en plus elle est irriguée par la lumière, c'est naturel, c'est de la lumière, et si elle est surélevée par la grâce en plus, aussi, ça, c'est vrai que c'est encore plus, à ce moment-là, elle ne peut pas être binaire. Elle ne peut pas être binaire. Elle est sponsale. Elle est conception, esponsalité, ou elle n'est pas humaine. Et c'est avec ça que tu as un bras de levier. Il est entre tes mains. Tu as un bras de levier, voilà ce qui explique cette mise. Tu te permets d'être en ce vase communicant par lequel tu es à l'intérieur de toute conception humaine actuelle. Ça va, ça? Et à partir de là, on est une cohorte absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'est le prophète aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui. C'est tout ce qu'on disait ce matin. C'est le bras de levier, quoi. C'est le bras de levier. Quand il revient, quoi, quand il revient sur les terres, sur le tel de la Cantabrique, hein, eh ben, à un endroit il va revenir. Vous savez, je vais vous dire une petite, parce qu'on ne vous l'a pas dit. Et je vais vous le dire, vous ne le dites à personne. Hein. Et vous dites surtout pas que c'est moi qui l'ai dit. Hein. Sinon, on va vous dire, oh bon. Il y a un endroit, pendant le Concile Vatican II, pendant 1260 jours, où l'archange Saint-Michel est venu sur un petit rocher, pas beaucoup plus grand que ce tabouret. À moi, quand j'y vais là-bas, je me mets dessus. Et l'archange Saint-Michel, c'est dans un endroit que aimait beaucoup Sainte Teresa de Calcutta. Elle disait ça, c'est l'endroit le plus important du monde depuis 1000 ans, au moins, minimum. Moi, je dis 2000 ans parce que si je lui avais posé la question, est-ce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 1100 ans, c'était aussi important que ça. Je sais à l'avance qu'elle aurait dit non, il n'y avait rien de plus important que ça. Forcément, la grâce est pressée par Dieu au fur et à mesure de l'histoire, par la cause augmentante, pas du tout par la cause diminuante. Et effectivement, donc cet endroit, il y a un rocher. Et lorsque l'archange Saint-Michel, et puis je connais les nanas aussi, parce qu'elles ont exactement mon âge, c'était une copine. J'avais mon ermitage là-bas. Alors, l'ange se mettait là comme ça. Et elles étaient là au pied, parce qu'elles avaient interdit de communier. Elles n'avaient plus le droit de rentrer dans l'église catholique. C'est tout fermé, tu rentres pas. Vous rentrez pas. L'évêque l'interdit. Très bien. Et du coup, elle rentrait pas. Alors, mais du coup, elle communiait quand même tous les jours. Attendez, moi j'ai rien dit. Moi j'ai pas dit que c'était Garabandal. Depuis quand est-ce que j'ai dit que c'était Garabandal? Vous dites ça, mais est-ce que je l'ai dit? J'ai jamais prononcé ce mot.
C'est bien qu'elle ait dit ça.
Je parle tous, vous sortez ça.
Il n'en parle jamais.
J'ai jamais parlé du roi, jamais parlé de Garabandal, Garacoral. Bon, donc là, l'ange apparaît là.
On a appris un truc à Garabandal.
L'ange apparaissait ici. Eh ben, en fait, il y a un chemin de pierre, etc. Une grosse pierre comme ça. C'est très difficile à gravir pour aller vers une montagne là-bas. On montait sa montagne. Et cette montagne, on arrivait à un endroit qui était à peu près à 630 mètres d'altitude. On allait un peu plus loin, on était à 738. Mais bon, eh bien, à 500, plutôt vers 550 d'altitude, c'est là qu'il y avait ce rocher. Il y est toujours. En fait, non, il n'y est pas toujours, malheureusement, parce que ces espèces de... Américains, ils l'ont déplacé, ils l'ont arraché, ils l'ont placé. Bon, allez, 100 mètres plus loin. Bon, mais c'est pas grave. À ce moment-là, il était là, en haut du chemin, fabriqué avec des énormes rochers comme ça. Presque impossible. Tu peux pas monter ce chemin sans te tordre dans les pieds. Et donc, l'ange Saint-Michel était là. Il se mettait là. Les enfants étaient là. Et puis, il leur donnait la communion. On les voyait, là. Il recevait la communion. Il a donné la communion, d'après ce qu'ils m'ont dit, au moins 1000 fois.
Une vidéo.
Mais des fois, on a pris la vidéo, quelquefois, on a pris le truc, où on voit ce Jésus hostie vivant, quoi. En plus, c'était la nuit, cette fois-ci, c'est le frère de Hélène Le Goëc qui a fait le film.
Qui a fait le film.
Et Jésus était vivant. Bon. Vous voyez cette épaisseur un petit peu du petit doigt, quoi. Voilà. Elle est vivant, palpitant, lumineux, délicieux. Et les petites filles, elles préféraient quelque part. Mes copines, elles préféraient finalement être en dehors de l'église qu'être à l'intérieur de l'église. Sans quoi je les comprends très bien. Bon, c'est vrai. Bon. Mais enfin, eh bien. Je vais vous dire un truc. Sur ce rocher, si les petites filles étaient là à un mètre, eh ben elles recevaient, elles voyaient ici l'ange qui leur donnait, s'approchait d'eux, enfin voilà, elles s'approchaient de lui, ou on ne sait pas trop, mais enfin son bras arrivaient comme vous quand vous recevez la communion du prêtre. Il avait cette taille. Mais si elles étaient à l'église en bas, hein, 400 mètres plus bas là, du même endroit, sur le même rocher, l'ange était là, là. Il avait la communion. Et il leur donnait la communion. Mais elles étaient au parvis de l'église, par exemple, comme elles m'ont expliqué. C'est le parvis de l'église. La marraine, tout à part la marraine que je connais, la marraine de Conchite, que je connais cette histoire. Quand c'était en bas, là, c'est parvis de l'église. Ah, oui, l'ange Michel leur apparaissait pour leur donner la communion. Mais en fait, il était là-haut, en haut du chemin. Il n'a jamais quitté cet endroit pour leur donner la communion. Mais c'est comme s'il était là, devant eux, dans la distance. Dans la distance. Et c'est ça, une des qualités de l'ange. Hein, c'est qu'il peut manifester par concentration tachyonique sa manifestation angélique. Et donc il était là-bas, en fait, finalement, il était là, mais il était allé 12 fois plus grand là-bas, de manière à être à l'exacte dimension de la proximité de celui qui donne la communion.
Photonique, quoi.
Hein ?
Photonique. Comme le photon a la propriété.
Oui, oui, mais je préfère tachyon, parce que tachyon, pour le monde angélique, parce que tachyon, c'est la matière, la cristallisation de la matière spirituelle dans un espace intemporel, dans un temps non spatial, plus exactement. Et donc ça, c'est parce que le temps non spatial, c'est beaucoup plus que le photon, vous comprenez? Le photon, c'est une ubiquité, c'est une possibilité de présence multiple dans les différents espaces. Tandis que le temps non spatial, c'est pas du tout pareil. C'est une propriété, j'allais dire, de la matière spirituelle inerte, dans le bereshit de Dieu. Hein? Ah, bon, on y reviendra sur le tachyon si ça vous intéresse. Bon, mais c'est très important pour la vie spirituelle entre nous, soit dit, parce que s'il n'y avait pas de tachyon, on a perdu la guerre eschatologique.
Donc c'est la dernière combat, après la matière vivante, c'est la matière...
Alors, très bien, oui. Ça, on va faire parler, je sais pas, moi, Minou, là-dessus. Ah, Minou, va nous expliquer son combat tachyonique.
T'as chopé grave, toi. C'est pas vrai, toi.
Minou.
Hein, Minou, on compte sur vous pour votre témoignage. Hein? Bon, enfin, en tout cas, là, je viens de vous donner un petit exemple tout simple, concret, quoi, hein, très, très incarné et tout simple. Voilà. Donc l'ange, il est là, mais il est certainement à la dimension assez immense pour que elle soit, même à un moment donné, elle a communié là-bas, la petite, quand elle a communié, elle était à Santander. Alors je veux dire, donc il devait être vraiment assez grand. Hein.
Ah oui, je me souviens de ce journal.
Mais pourquoi il faut qu'il y ait un seul point? Pourquoi c'est un rocher?
Va lui demander, j'en sais rien.
Je croyais que vous aviez réponse à tout, moi. Moi, c'est la question que je vous pose.
Eh bien, pose-toi la question. Je fais exprès de ne pas te répondre pour que tu prennes autorité sur toi-même en disant « Je peux demander la lumière sur cette question. » Et je l'ai.
Je vais raconter l'histoire de Garabandal.
Allez, vas-y.
Alors, on était tous ensemble à Garabandal avec le père. Et un jour, il nous dit, on va célébrer la messe tout en haut. Mais là, tout en haut, justement, à l'endroit où...
Au-dessus des pins et tout.
Oui, voilà. Où il y a la croix glorieuse, mais tout en haut, tout en haut. Alors, on tombe tous.
Le club nous avait interdit d'aller dire la messe. Le club nous a interdit de dire la messe en bas.
On a monté l'hôtel, parce qu'il y
a l'hôtel. Tu nous as interdit de dire la messe en bas.
On a monté l'hôtel et tout. Et on arrive, donc, c'était un grand rectangle, avec la croix, il y avait la croix glorieuse qui était là, au plein milieu. Et ce grand rectangle comme ça, qui était formidable. Et le père installe l'hôtel, tout ça, on se met partout, on se met en blanc et tout. Puis de loin, on voit, tout en haut de la montagne, un brouillard énorme, qui descend. Un brouillard, mais
couteau.
Formidable.
Ah oui, carrément.
La messe se passe, tout d'un coup, le brouillard fait tout le rectangle, comme ça, tout autour de nous. Comme dans une église, le toit ouvert, le ciel qui était comme ça, et tout autour du rectangle, le brouillard faisait un mur, on était dans une église, c'était...
Et au moment de la consécration, ça a fait un dôme.
Et ça fait un dôme, c'est ça.
Un dôme parfaitement.
Et la messe se termine, tout le brouillard descend, parce qu'en plus c'était un brouillard formidable, hein, très, très dense.
Vers le village.
Et le brouillard nous faisait un chemin comme ça, pour descendre en bas, pour descendre en bas. C'était extraordinaire.
Et on a loupé
et
ça.
Et on ne pouvait pas rentrer, on voyait pas de l'extérieur, enfin, on voyait pas à l'intérieur, hein, c'était dense. Hein.
Oui, parce que nous, à l'intérieur, le curé vous interdit, nous a interdit de tirer la messe, ça va, on va monter là-haut. Oui, mais de là-haut, ils vont nous voir, hein.
Eh ben non.
Ben, ils ne pouvaient pas nous voir, on était complètement enveloppés par une espèce de nuée. Ça a été magnifique, ce brouillard, en plus.
Ah oui, oui, c'était beau.
C'était beau, ce brouillard.
Et puis surtout, tu vois, il n'y avait pas de toit.
Mais c'est parfaitement géométrique, parfaitement domé.
Ah, c'était merci.
Parfaitement. C'est un miracle en direct, tu sais
pas. Ah, ouais, et puis, voilà, non, vraiment, c'était vraiment, oui, c'était bizarre, hein. Puis ils faisaient des chemins.
Et les deux petites vieilles dans la maison qui était
Ah, si tu commences à raconter tout d'abord.
Ah oui, garde, c'est...
Ah, la DJ dans la maison. L'homme à conception dans la sponsalité et l'unité de l'innocence dans le Christ. Bon, vous allez apprendre cette phrase par cœur.
Avec l'accent ?
Si vous avez l'accent, si ça peut vous aider.
C'est plus sympa.
Alors, tu échappes à la dualité. Parfois, s'il y a Carpistner, il y a Carpistner. Il y a bien eu René Guénon. Yves Dalveil. Très bien. Ok, très bien.
Et donc, je t'aime.
Mais... Le mieux auquel ils ont eu accès, ces gars-là, c'est à la structure du cadavre. Mais comme dit l'ange Gabriel au prophète Daniel, qui peut créer une arme ? Comment peuvent-ils créer une arme ? C'est un cadavre. Et à l'intérieur de ce cadavre, c'est le vide. C'est l'aquilon, comme dit saint Hildegard. C'est l'aquilon, c'est le vide. Alors qu'ils construisent leur cadavre, et les petits rois fraternels de l'univers, techniquement, rassemblent tout ce qui dans l'univers ressemble à ce cadavre, et le rassemblent dans le vide du cadavre. Et qu'ils en fassent un clone, et qu'on n'en parle plus. Et puis le jour où on a décidé avec le roi, hein, on prend une petite caillou de rien du tout, la taille d'un génome, on prend la fronde, on balance, il n'y a plus rien. C'est ça la guerre eschatologique catholique. Donc, si on a perdu des milliers d'heures à se préoccuper de ce qu'ils foutent dans ces saloperies d'atelier, on a perdu notre temps. On n'a pas perdu notre temps parce que, sous un certain rapport, on a perdu, puisque quand l'heure est arrivée, on a dit, mais et si on trouvait le petit caillou ? Et si on trouvait la fronde, et si on trouvait le corps spirituel venu dans nous, et si on comprenait une fois pour toutes le char des livres prophètes, si on comprenait l'union transformante avec la mise en place du corps spirituel, et qu'on s'y met tout de suite, alors on n'aura pas perdu de temps d'avoir pataugé dans les marécages, à frôler la mort éternelle dans le marécage. À cause des trois sorcières.
Il y a quand même un truc qui n'a pas été dénoncé. Parce que l'hyper Patrick, c'est très très grave. Quoi, le... ah en 2015, en France, ils ont fait. Hein? Donc, si vous avez envoyé un mail, hein, ils ont cloné un embryon de 5 jours. Ils ont coupé l'embryon en deux. Ils ont cloné les cellules multipotentes pour en faire un tissu du cœur. Et pour le greffer sur une patiente de 67 ans. Et donc la greffe. Donc ça, c'est vraiment la régression totale. Enfin, c'est... Pour moi, c'est l'abomination, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est faire régresser. C'est-à-dire, il y avait ces cellules, cet embryon de 5 jours qui avait, qui avait tout son programme d'être humain, sa potentialité d'être un être humain. Et ils ont fait régresser cet embryon de 5 jours. En un tissu de rechange cardiaque. Et ça, on l'a pas dénoncé. Ça, les évêques, non. Tu regardes CEF éthique, non.
Non, CEF.
S'il fallait que les évêques...
Bah oui, mais là, c'est quand même un point...
Fasse un écrit. À chaque fois qu'il y a une abomination, hein, il faut que tu multiplies par 200 le nombre de secrétaires.
Oui, mais là, on a franchi une étape...
On a franchi une étape en 2005. Non, on a franchi une étape en 2005.
Oui.
La première étape a été en prémisse, prophétiquement, malheureusement, bon. Par prévenance, c'est la France qui, en août 2004, a célébré, sur la base de la congélation de 200 000 embryons, l'ouverture à l'introduction dans le sein des saints pour la production de copies par la méthode du clonage, de copies d'hommes. Voilà, ça oui. Et ça, ça a été immédiatement suivi grâce au premier ministre de l'époque, Villepin, qui a passé 3-4 semaines avec une fébrilité énorme parce que l'ONU allait interdire le clonage au niveau mondial. Pour que l'ONU, avec l'aide d'ailleurs de certaines associations comme Alliance Vita, c'est ça, pour faire tout pour que le clonage ne soit pas interdit. Et effectivement, l'ONU, finalement, a lâché prise à cette époque-là, et c'était passé en avril, je ne sais plus, tu connais les dates, toi. 9 avril 2005.
8 mars 2005.
8 mars 2005.
Le jour de la journée de la femme.
Le
lieu de la féminité, de l'innocence et de la féminité, évidemment. Ève, l'ONU, symbolisé par l'ONU, l'autorité mondiale.
Voilà. Et là, ce jour-là, c'est que si mes chemins annoncés par l'ange Gabriel au prophète Daniel, a été consommé. Le Chikoussi Meshomem est donc derrière nous. Ça s'est passé en fond. Pour la France, ça se passe en 4 étapes. Je vous le signale d'ailleurs. Parce que ça, c'est un petit peu l'élément nouveau au niveau, sur le plan de la France. La France nous intéresse beaucoup. Hein, parce que la France, c'était. Le premier moment, ça a été au moment de la tempête hein, qui a déraciné 360 millions d'arbres. Hein, à cette heure-là. Donc, vous le savez, vous avez vu la vidéo. Hein, vous avez vu cette vidéo, la première du
Méchant.
Ah ouais. Numéro 1.
Ça, c'était formidable.
Et alors, effectivement, un vent est sorti de l'autre côté de la Terre. Il est allé au sud, au nord. Enfin, il y a eu des inversions. Et c'est allé directement à un courant qui est allé frapper, alors qu'il ne frappe jamais d'habitude. Normalement, ça va carrément vers la Scandinavie. Et puis bon. Et là, il s'est baissé comme un... Et ça a la forme d'un serpent, hein, ce...
Oui, oui, tout à fait.
Ça a la forme d'un serpent, d'ailleurs.
Et pourquoi la Bretagne?
Quand tu fais de l'autre côté de...
Pourquoi c'est la Bretagne qui a tout pris?
Qui a fait basculer Mitterrand.
Parce que Jospin signait cette heure-là...
Ah, oui.
Le passage de la proposition, de la demande du Premier ministre à l'Élysée, donc à la présidence de la République, de l'autorisation, à la suite d'un avis du Conseil d'État... Que la France puisse engager la loi de bioéthique qui autorise le clonage. Ça va ? Quand il a signé ça, c'était, je ne me rappelle plus si c'est 24 décembre ou
moins. Ah oui, c'était au moment de Noël.
1999.
Oui, après Noël.
C'était oui, pour les saints innocents ou quelque chose comme ça. Bon. Et à ce moment-là, ce vent est né. Et évidemment, il lui a fallu environ une vingtaine d'heures pour arriver. Et il s'est baissé comme il est venu éventrer toutes les côtes françaises, parce qu'il faut voir la dimension de ce truc. Ça fait à peu près à 50% en largeur de l'ensemble de la côte. C'est venu frapper que la France. Et là, il y a eu la tempête. C'est quand même 360 millions d'arbres. Et c'était à l'heure près, l'heure de la signature. C'était après. D'ailleurs, il a frappé en deux fois. Je ne sais pas si vous en rappelez. Bon, ça, c'était l'intention. Ensuite, il y a eu... Je passe les détails parce que... avec Bruno, Vigilance Clonage International, et les équipes d'intervention dans les groupes de pression ONU qu'il avait organisé avec Dupouillet, etc. et d'autres, il a créé Bruno Vigilance Clonage International. Donc on a suivi le dossier, une trentaine, quarantaine suivent le dossier. À partir de l'an 2000, on s'est constitué à Rome, à l'ombre du Saint-Père. Voilà. du président des dicastères de la santé qui s'appelait Barragan. On s'appelait groupe Barragan à cette époque-là. Donc on a suivi ce dossier, on était une trentaine d'experts à peu près. Moi j'étais du côté philosophique, physique, théologique. Voilà, mais sinon on a suivi tous ces dossiers. Et c'est comme ça que, bon, on a essayé de prendre nos responsabilités de manière que ça s'arrête ce truc. Mais on n'a pas réussi à le faire déplacer plus que 2 ans et demi. Mais on a tout de même réussi à ce que ça ne vienne pas tout de suite. Et donc ça a été décidé et voté en août 2004. Donc la loi de bioéthique ici, elle dit, bon écoutez, le clonage concernant l'introduction dans le sein des seins de l'apparition de l'ontologie dans la nature humaine, comme on ne sait pas, ou on pense qu'il n'y a rien dès la première cellule, c'est-à-dire à la conception, comme on propose qu'il y a quelque chose probablement à la constitution de l'être humain, eh bien on va autoriser le clonage de la conception jusqu'à la constitution. Ça s'appelle la loi de bioéthique. Le préambule, comme pour Simone Veil et l'avortement, c'est dire le clonage, c'est le crime métaphysique par excellence contre l'espèce humaine. Et en même temps, ben, si c'est la conception, allez-y. Et voilà. Et donc on a voté grâce à l'Église catholique. Les francs-maçons n'ont rien eu à voir avec ça. C'est que des catholiques pratiquants. Avec le moteur théologique, le moteur mystique, les frères de Saint-Jean, communauté Emmanuel, allez, Duc de Derby, Alliance Vista, ils sont battus pour que ce ne soit pas interdit de faire du clonage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'animation immédiate. Le pape est un imbécile. Le pape Jean-Paul II n'est pas un imbécile. Mais comme le pape est un imbécile, donc tous les frères de Saint-Jean, tous ceux qui suivent largement, comme voilà, et le ministre catholique, équipe Notre-Dame de l'époque, donc Mathieu, en avant, on y est allé. Et on a fait cette loi de bioéthique. Le premier ministre catholique, Villepin, moi je connais son oncle qui était sénateur, était en relation hebdomadaire avec lui. C'est pas une famille de francs-maçons. Ben c'est lui qui a obtenu le morceau ensuite à l'ONU. C'est lui qui a arraché le morceau. C'est que des catholiques, pas francs-maçons. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils ont une capacité d'utiliser comme fer de lance pour l'actuation que des catholiques pratiquants. Avec la complicité de l'épiscopat, bien sûr. Avec la complicité épiscopale. Bienveillante. Moi je dis pas rampante, je dis bienveillante, parce que l'église, qu'est-ce que vous voulez? C'est le berger qui se trouve derrière le troupeau avance et le berger passe derrière, quoi. Elle a pris cette habitude, l'église, et c'est normal quand on est berger, qu'on avance, mais derrière, hein. Passe pas devant, hein. C'est toujours derrière le troupeau.
Tu devrais être prophète Élie.
Quelquefois, tu te mets devant si tu es prophète.
C'est le prophète Élie qui se met devant.
Le prophète Élie n'est pas encore revenu, c'est le problème alors. Eh bien, c'est la deuxième étape, ça a été donc août 2004, d'accord. La troisième étape a été très importante parce que jusque-là, l'Église catholique ne se bougeait pas. À Rome, on ne se bougeait pas. Les philosophes ne se bougeaient pas, les théologiens ne se bougeaient pas, les cathos, dans leur ensemble hyper branché, ne se bougeaient pas. Les intégristes, Saint-Pie V, alors, se bougeaient pas du tout. Ceux avec qui on a eu le plus de mal, c'est avec les traditionnistes Saint-Pie V. Hein. Alors eux, c'est vraiment la... Comment est-ce que vous appelez ça?
La grosse cavalerie.
Ah oui, alors là, ils avancent en disant, mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on a mis l'autel de la messe, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Si, mais c'est le même, c'est quoi? Alors non, voilà, on a changé les rubriques. De la liturgie. Mais dis, excusez-moi, mais Saint-Pie V, il n'a pas changé l'église de la liturgie à son époque. Excusez-moi, enfin, vous avez jamais été chez les Maronites? Ils ont changé la rubrique? Ah oui. Oui, c'est dégueulasse, c'est pas la messe catholique de toujours. Ben oui, mais enfin, il y a quand même 1500 ans d'âge de plus que vous, quand même. On s'en fout, c'est ça l'abomination de la désolation. Ah bon, d'accord, c'est la messe de la désolation. Non mais, quand on est taré, on est taré. Hein. Un mec taré, vous ne pouvez pas enlever quelqu'un qui est taré de son tarisme. Strictement impossible. Alors, avec eux, on a eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que saint Thomas d'Aquin disait qu'il n'était pas le seul. Tous les pères de l'Église, sans aucune exception, ont milité pendant 2000 ans, pendant 1800 ans, tous, ils ont milité pour proclamer que l'animation de l'homme dans le ventre de la mère était une animation tardive. Saint Thomas d'Aquin, il disait 40 jours pour le petit garçon et 80 jours pour la petite fille.
Parce qu'il y a
logique,
la présentation.
Ce qui
est d'une logique
imparable,
non?
C'était
sa logique nous sommes, à lui pour la connaissance.
Et on utilise toujours cette histoire de saint Thomas d'Aquin pour le ridiculiser aujourd'hui, mais sauf dans les grands colloques internationaux sur le clonage. Ah, oui. Parce que là, on dit, mais saint Thomas d'Aquin lui-même disait 40
jours. Il n'y avait pas l'échographie.
40 jours. Alors taisez-vous.
Surtout pas les filles.
Il n'y a pas que saint Thomas d'Aquin. Tous les pères de l'Église ont enseigné l'animation tardive. Il n'y a pas d'animation immédiate. Ça doit s'en faire partie de votre culture catholique. Vous êtes catholique, tous les pères de l'Église. Donc quand vous êtes à Rome, et à cause de ça, tous les prêtres, théologiens formés dans les séminaires, tout ce que vous voulez, etc., sérieux, et quand tu leur dis, mais attendez, à Rome, partout, les théologiens, je me rappelle le père Cottier, le théologien de Jean-Paul II, dominicain, et que j'ai suivi ses cours à Fribourg et tout ça, et au Vatican, animation tardive. 98% des théologiens, animation tardive. 2% disent animation immédiate. 1% qui disent, je pense animation immédiate, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis 1%, mais le 1%, c'est moi. Alors, ça ne fait pas beaucoup dans la balance, quoi. Alors bon, le résultat n'est pas...
C'est un prophète.
Pourquoi?
C'est un prophète.
Non, vous n'êtes pas prophète. Je ne sais pas, c'est le bon sens.
C'est bon sens.
Le pape, il dit, l'âme spirituelle de l'homme apparaît dans la conjonction de la signification sponsale du corps de l'homme et de la femme, qui constitue un génome de l'homme à la fécondation. Et ce génome porte avec lui une dignité anthropologique et ontologique qui trouve son fondement dans l'âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome de l'homme.
La référence, c'est
24 février 98 à l'Académie pontificale pour la vie.
Mais là, elle n'est plus trouvable, cette phrase.
Chantal n'a pas encore...
Sur catholique et
frère. Non, elle aussi.
Parole,
vous m'avez dit qu'elle avait été supprimée.
Oui, non, elle a été supprimée. Dans les studios, pas dans les archives.
Pas dans les archives du Vatican. Non, mais c'est bien de préciser, parce que moi, j'avais mis dans ma tête que j'avais carrément...
Non,
il reste une preuve.
D'accord, compris, parce qu'il a profité de cette occasion de se faire entendre, mais...
Donc, simplement, il faut comprendre pourquoi il y a une espèce de très grosse lourdeur. Et par exemple, chez les cathos de tradition, par exemple, on dit, attends, on ne peut pas aller à l'inverse de 100% de tous les pères de l'Église. C'est pas parce qu'un uberlu, un sanglier qui derrière un buisson apparaît en disant c'est l'animation immédiate qui est vraie, c'est qui celui-là?
D'où il sort celui-là?
Non, mais que saint
Thomas le pape, c'est quelqu'un d'important, normalement, les pères de
l'Église. Ah oui, mais ça, il sait pas ce que c'est qu'un fondement. Non, il sait pas ce que c'est qu'un... Il sait pas ce que c'est qu'un écaston en métaphysique. Il a jamais fait de métaphysique, le pape. Donc, l'écaston en métaphysique, il sait pas ce que c'est. Et il dit, elle trouve son fondement dans l'âme spirituelle qui imprègne avec le fils et le nom. Fondement, il a dit. Mais alors... dit, mais vous savez ce que c'est, vous, très Saint-Père, un fondement, Caston, en métaphysique? Alors, nous, on sait, parce qu'on est protestant, on sait que Saint-Père, il ne sait pas ce que c'est en métaphysique, là, ce que c'est qu'un fondement.
Moi, je ne sais pas.
Hein? Qui s'appelle
Meta
Ossia Energeia. On appelle ça MMM, métaphysique maternelle.
Je te le conseille, je viens de le dévorer.
MMM, et métaphysique maternelle minimum.
Oui, oui, oui.
C'est pas
quand même téléchargeable gratuitement sur.
Métaphysique maternelle 1, c'est mon premier, mais oui. Je devais.
Il y en a d'autres, il y avait d'autres derrière.
Oui, oui, il y en a 3.
C'était prévu.
Un, deux, trois.
C'était prévu.
Mais... Et Benoît Saint aussi est revenu sur ce que dit Saint Augustin, le fait que les bébés allaient dans un.
Oui, non, celui-là, c'est encore une. Ça, c'est parce que.
D'ailleurs,
la tradition, comme Saint Pie V, les jansénistes, a dit écoutez, il y a le péché originel, ces enfants, s'ils sont morts avant la naissance, on n'a pas pu les baptiser, donc ils iront jamais, 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 jamais au ciel. Donc ils subiront, quand tout le monde va ressusciter, ils vont ressusciter aussi, mais ils n'iront pas au ciel, de la vision béatifique, puisqu'il y a le péché originel. Donc ils iront dans une espèce de truc, ils seront dans la peine de la damnation éternellement. Mais ce sera très doux pour eux. Ça, c'est la position des jansénistes qui tiennent ici, mais qui a été plus ou moins repris par la tradition. Donc la tradition, tu vas voir n'importe quel monseigneur le fait, il va dire c'est les limbes, et puis nous, c'est tout. Ne nous embêtez pas avec la justification des enfants. On ferme le dossier, terminé. Nous, c'est les rubriques.
D'ailleurs, le nouveau préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, là. C'est lui qui a travaillé à la Commission théologique internationale pour l'idée qu'il n'y ait que les enfants, justement sur les enfants non nés. Lui qui a fait le boulot avec Benoît XVI
pour dire que. Là, on a fait le boulot, nous aussi, du temps Jean-Paul II, puis après, ça a été repris du temps de Benoît XVI, et là, on y était. Il a joué ton gars là à ce moment-là, c'est très bien. C'est très bien, ce qui est sorti, c'est parfait. Hein. D'ailleurs, Catherine a mis ça sur le site nonné.com, un résumé en 30 lignes, des points importants de la ligne de fond de Rome sur cette question. Hein. Voilà, donc d'accord, on va accepter la discipline de ne plus prononcer le mot de limbe. Voilà, il demande juste ça comme discipline. Prenez comme discipline de ne plus prononcer le mot de l'âme. Il est trop chargé par rapport aux jansénistes et puis par rapport à gens qui sont cristallisés là-dessus. Voilà, donc, ils sont en attente, ils sont sous l'autel, ils sont tout ce que tu veux, ils sont à la disposition de la miséricorde de Dieu pour ceux qui veulent bien s'en occuper à travers l'Eucharistie. Voilà, en gros, en résumé. Donc, ce qui s'est passé entre le moment où on a autorisé la recherche du clonage, la production d'êtres humains par méthode de clonage, de la conception jusqu'à stade de la constitution, mais pas après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant, ça a duré quand même, 2004, vous voyez, regardez, ça fait quand même pas mal, 2013, ça fait 10 ans, quoi. Donc pendant 10 ans, on a constaté, ce qui, je crois, est très très vrai, je ne crois pas que ce soit une fausseté, parce qu'on a quand même suivi le dossier, quoi, très attentivement. On disait, voilà, ça marche pour les animaux, on fait une brebis, on fait un singe, ça, il n'y a pas de problème. On fait une tourterelle, pas de problème, il n'y a aucun problème. On fait une souris, il n'y a aucun problème. Mais dès que c'est un être humain, le clonage, on conçoit, on démarre le truc, et puis à la quatrième, sixième parité, ça ne marche plus. Donc c'est normal, puisque tu ne peux pas créer une âme. Donc si l'embryon démarre, le processus de la fécondation commence, il y a un œuf qui démarre, et puis comme il n'y a pas d'âme, ça devient pas un œuf blanc, mais presque. Il va rejoindre le lot des œufs, des œufs fécondés qui sont des œufs blancs. Hein, faut pas oublier quand même qu'une femme, si elle conçoit beaucoup d'enfants, il y a à peu près, paraît-il, hein, c'est ce que me disait un embryologue de Nantes il y a 30 ans, il y a à peu près 70 à 85% d'œufs qui sont fécondés et qui s'arrêtent. C'est énorme. Donc tous les œufs, au départ fécondés, n'ont pas forcément une âme. Et d'ailleurs, c'est un argument très très fort qui était donné à l'époque dans les colloques internationaux pour dire Dieu ne peut pas. Si vous dites animation immédiate, ça voudrait dire que Dieu, dans sa sagesse créatrice, a prévu qu'une âme spirituelle est créée pour chacun d'entre eux et que l'immense majorité des hommes créés par Dieu sont faits pour chut, 5 jours après, tomber dans la soupe. C'est impossible. Il n'y a rien dans la nature qui fonctionne comme ça. Parce que si c'est une telle proportion, dans la nature, ça veut dire que l'espèce est terminée dans la génération suivante. Donc, sagesse créatrice de Dieu, c'est évident que ce n'est pas possible qu'il y ait animation immédiate. C'est un des gros arguments dans les colloques.
Ah oui,
c'est un syllogisme absurde, évidemment, parce que Dieu est forcément... C'est au contraire la preuve que Dieu existe, que c'est la preuve que Dieu crée l'âme spirituelle dès le départ, et la preuve que Dieu est libre de créer. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, hein. Abraham, tout ce que tu fais avec Sarah, hop, 90%, c'est 100% pour vous. Il a fait pareil avec Zacharie, il s'est allé du chemin. Ah ben tiens, cette fois-ci, Dieu veut créer. C'est marqué dans la Bible. Si vous voulez, on peut vous acheter une Bible.
Il a fait pareil avec la
Bible. Ben, ils étaient demi-frères.
Hein? Pareil pour Samson. Pareil pour Samuel.
Pour le 14.
Pareil pour Jean-Baptiste, hein?
Le 14.
Pareil pour Louis XIV. Grâce à Sainte Catherine d'Alexandrie. Et Saint-Michel, encore. Eh ben, la famille était stérile. Louis XIII était complètement stérile. Et tout le royaume, dans toutes les églises de France, ont prié pendant 21 jours à la demande de l'ange.
Oui, oui.
Et de le 21e jour, un roi...
Ils sont allés à Cotignac.
Cotignac.
Saint-Joseph.
Oui, ça oui. Donc Dieu est libre de créer. C'est vachement important de comprendre ça. Que Dieu est libre de créer. Mais donc aujourd'hui, pendant 10 ans, je veux dire, on fait de la conception, eh bien Dieu, il met pas d'âme. Donc ils se sont dit, c'est marrant, ça marche. Enfin, c'est marrant. C'est très, 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 très ennuyeux. Pour l'animal, ça marche. Pour l'homme, ça ne marche jamais. Donc, le clonage humain, c'est une utopie. Vous avez entendu ça?
Ben, ils ont fait des chimères aussi.
Non, mais je ne parle pas de ça. Ça, c'est un clonage animal. Si je mélange l'homme à l'animal, ça ne fait pas un homme, ça fait un animal. Donc, je parle de l'homme. Un homme créé comme homme, comme copie de l'homme. Un vrai jumeau.
Ça sera pas alors.
Créé par mode de clonage. Un vrai jumeau créé par mode de clonage. C'est-à-dire par énucléation de l'ovule et puis fécondation par un génome totipotent. Voilà, et puis ça démarre.
On m'a dit qu'il y en avait.
Oui, alors pendant 10 ans, on a dit c'est impossible, ça ne marche pas, c'est une utopie. À Rome, ils nous ont cassé les oreilles avec le tube d'Alavista et tout ce que tu veux. Jérôme le Jeune, enfin toutes les associations catholiques bien pensantes, et la tradition, et les charismatiques. Et les mystico-dingos, tout ça n'existe pas, c'est une utopie. Bon. Moi, personnellement, je suis très, très orgueilleux, très fier de moi, parce que ce que j'ai affirmé en tant que théologien, en tant que métaphysicien, et puis pendant... J'ai dit, mais bien sûr que si, c'est possible. C'est pas du tout une utopie. Enfin, toujours est-il qu'on a laissé la chose comme ça, en France, avec la loi de 2004. On s'est dit quand même, il faudrait quand même faire quelque chose qui rende quand même possible cette histoire de clonage, qu'on puisse trafiquer, qu'on voit un petit peu, qu'on fasse des mélanges, qu'on trafique, quoi, qu'on puisse manipuler quelque part les séquences génétiques pour faire en sorte que peut-être il y ait quelque chose qui fait que ça puisse marcher quand même, bref. Et il y a eu la fameuse loi de 2008, la bioéthique est revenue en 2008, en permettant... Et puis à nouveau, troisième étape, quatrième étape, en 2013. Pourquoi 2013? C'est pour votre culture que je dis ça. En 2013, d'un seul coup, début janvier, on apprend, voilà, je vais vous passer les détails, je pourrais vous le dire, mais j'avoue que j'en ai marre de le répéter sans arrêt, donc je ne vous le dis pas. Mais scientifiquement, ça devient possible de faire du clonage humain. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la cinquième, sixième parité, pop, ça passe la constitution et ça peut se, et l'embryon peut se développer en 200, 300, 800. Bon, ça y est, le fœtus démarre. On s'aperçoit qu'on a trouvé un système pour contourner l'obstacle de ce qui est contraire à la sagesse créatrice du créateur. Et aussitôt qu'on l'apprend, une espèce de beauté, de splendeur féminine apparaît en France, du nom de Taubira. Un top modèle de la sorcellerie la plus luciférienne, la plus noire.
Un monstre.
Et on la charge de faire voter la loi de 2013, puisque c'est possible. Donc c'est là, c'est à cause de ça qu'il y a une accélération. Mais alors, phénoménal. C'est une accélération, mais phénoménale, mais phénoménale. Tout le monde s'est excité, il fallait aller le plus vite possible, etc., pour faire la loi d'homosexualité, le mariage homosexuel, en appuyant sur le fait qu'il fallait l'égalité absolue entre l'homme et la femme mariés à la mairie, et puis deux, les homosexuels mariés à la mairie. Une égalité, non pas une fraternité, non pas une liberté, mais une égalité. Elle n'a jamais prononcé le mot liberté. Du mariage homosexuel. Jamais elle a prononcé le mot fraternité. Mais égalité de droit naturel. Égalité. Pourquoi égalité? Parce que le papa et la maman, eh ben, ils ont le droit d'avoir des enfants qui viennent de eux deux seuls, n'est-ce pas? Mais deux PD. Brigitte Barjot, l'autre jour, il y a 10 jours, elle m'a dit, dites pas PD, dites homosexuel. Ben, je dis, moi, quand j'étais gosse, à la cour de récré, on disait PD. Oui, mais PD, maintenant, elle me dit ça, maintenant, ça fait penser plutôt aux enfants.
Ouais, mais elle n'a pas compris la dialecte.
Peu importe, c'est pas, je vous dis ça, donc je dis pas PD, parce que ne dites pas PD, sinon on va tout balancer que vous dites. On va balancer tout ce que vous dites comme étant absolument impossible à écouter, ou en tout cas peu crédible, parce que vous faites quelque chose qui est ambivalent. Donc, dites pas PD, dites homosexuel, je suis d'accord. Parce que maintenant, on dit PD, c'est pédérastie. C'est pédophile. Voilà. Donc voilà, vous êtes plus crédible si vous faites l'amalgame. Donc ne dites, elle a raison. Très bien. Il faut quand même. Elle sait ce que c'est que les médias. Elle. Donc. Ça devient possible techniquement, scientifiquement, biologiquement. Et donc Taubira, la splendeur de la splendeur. La beauté parmi toutes les beautés, l'icône même de la féminité,
la maternité incarnée.
Ah non, la maternité hypostasiée, c'est Simone. Et ben, donc elle arrive, elle dit, et elle accélère le mouvement politique. On vous rappelait, 2013, c'est une accélération, mais phénoménale. Il fallait accélérer tout le monde. C'est pour ça que les gens, d'habitude, la formation, les ateliers.
C'est pour ça que l'ONSS a senti le moment.
Hein. Les ateliers, oui, tout à fait.
Cette année-là. Hein,
ah, bah il est parti là.
Ouais. Février.
Il est allé prier, il s'est retiré.
Non, mais attends, il a donné sa titre de garde. Il sait que si Goussy Méchamem va s'actualiser ouvertement, et donc il donne sa démission. Moi, je ne veux pas être le pape du Goussy Méchamem.
Il ne veut pas s'appeler Méchaum Premier.
Sinon, je m'appelle. Oui, sinon, ça m'appelle. On m'appellera Méchaum
Premier. Tout à fait. C'est François, c'est pas clair. Toi.
Et donc, vous vous rappelez de l'accélération phénoménale qui, d'ailleurs, d'habitude, dans les ateliers, on s'arrange pour aller millimètre par millimètre, tranquillement. Il faut d'abord qu'il y ait une opération de séduction, de propagande, de pénétration intellectuelle, que tout le monde soit d'accord, que ce soit l'intellectuellement correct, parfaitement partagé par tous. Que la propagande est fonctionnaire. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que ça a soulevé la manif pour tous.
La manif pour tous.
Donc nous avons ici un des représentants.
La manif pour tous.
Et ça a été un petit peu... Ça fait rien. Il fallait... C'était... Ça fait rien. On prenait le risque. Il fallait y aller.
Il y avait du monde, hein.
Il fallait...
Dans les manifestations.
Ah oui. Ah
bon. Bah, jusqu'à 2 millions de personnes, je pense.
Ah tiens.
Bah, j'en ai fait partie.
Merveilleux.
Ils n'ont eu rien à foutre. Rien à foutre de ça. Hein.
Ça a remarqué.
Ouais.
Ah ouais, moi aussi.
Mais en même temps, la ruse, l'accélération du mouvement, c'était en fait l'intention, c'était pas le mariage homosexuel. Ils en auraient, Taubira n'en a rien à cirer, elle n'est pas pédée. Hein, donc, putain, quoi que ça, c'est pas sûr. Alors ça, t'as tout pour ça.
Au féminin, c'est...
Sorcellerie. Elle a vu quand même de la sorcellerie. Donc...
Oui, ça, j'en sais rien. Mais le but, c'est qu'en même temps, le même jour, on faisait voter la loi de bioéthique. Le même jour. Avec la même assemblée. Et on a autorisé. En 2013,
6 août 2013,
pour la transfiguration du Seigneur, transfiguration du corps du Seigneur, on a autorisé en France donc la production de conception de clones humains dans toutes les maternités de France. C'est une autorisation universelle de la production biologique d'êtres humains par la méthode. Par la recherche embryonnaire, sur les souches embryonnaires. Vous êtes au courant de ça, j'espère. N'est-ce pas ? Donc ça, c'était la troisième étape. Et là, on court en ce moment, et ça, c'est l'élément nouveau, depuis 2 mois, puisque maintenant, on a Attali Macron, pas seulement Attali Macron, d'ailleurs, c'est tout l'ensemble. Il y a quelque chose qui va vers le mois de octobre-novembre, là, qui est devant nous, qui est l'étape terminale, la clé de voûte du Chicoutsi Meshomem, de la fille aînée de l'Église, au milieu du monde. Donc il donne l'exemple de ce que l'ONU a autorisé, et donc ce sera automatiquement autorisé, et puis suivi dans le monde entier. C'est quoi qui se prépare là ? Il se prépare une loi qu'on va appeler, que dans la prophétie, chez nous, on a appelé la loi d'abomination dans la chambre de l'enfer. Ce sera le chambre de l'enfer, comme disait la stigmatisée de
Marie-Julie
en Bretagne, morte en 1941. 3 mars 41. Elle disait la chambre de l'enfer. Ce sera un moment où la chambre de l'enfer, j'ai pas retrouvé d'ailleurs l'endroit, j'ai un moment où j'ai cherché. Dans la chambre de l'enfer, il n'y aura plus un seul catholique dans la chambre de l'enfer. Plus un seul. Catholique en état de grâce.
Catholique de nom, mais pas d'état.
Oui.
Peut-être quelques baptisés, mais si un catholique est rentré dans la loge.
Qu'on m'a dit qu'il y en avait au gouvernement.
Si un catholique est rentré dans la loge, c'est fini. Il n'est plus catholique puisqu'il est excommunié. Oui. Donc il n'y aura pas un seul catholique dans la chambre de l'enfer. Ce sera la première fois depuis Clovis qu'il n'y aura aucun catholique dans les sphères du gouvernement du royaume. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une chambre qui a été élue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, et qui établit à peu près les conditions de la chambre de l'enfer. Parce que...
Vous n'avez pas trouvé de catholique ?
Il n'y a pas un catholique ?
Cherchez, et donnez-moi son adresse, je lui téléphone tout de suite. Et je lui dis, fuyez ! D'ailleurs, je signale comme ça, à titre de confidence, que c'est à cause de ça que la petite Marion Maréchal s'est tirée pour ne pas en faire partie. Et que aussi, Fillon s'est tiré pour ne pas en faire partie. Et il l'a fait sciemment, croyez-moi. Il l'a fait très très bien, il l'a fait sciemment.
Ah bon ?
Hein ?
Ah bon ?
Je connais quelqu'un qui sait. Là, ici, il y a quelqu'un qui sait ce que je suis en train de dire.
Si elle le sait, ça serait gentil de nous.
Non, mais je vous le tiens en confidence. Vous n'avez pas besoin de savoir des secrets de Polichinelle. Bon, alors.
Ah oui, parce que lui, il est catholique.
Le 6 août 2013, ça y est.
Et donc, il n'est plus député. Là.
C'est pour ça qu'il a dit, moi, je sors de ça. C'est fini. Donc, au niveau des responsabilités politiques, je suis catholique, donc je dois sortir.
Mais cette loi de la salle de l'enfer, c'est quoi
Et il doit y avoir une loi d'abomination qui va sortir, et je peux vous dire que ce qui est en train de sortir, se préparer pour octobre-novembre, c'est la clé de voûte des 3 premières étapes. Oh, j'en sais rien.
Pas forcément.
Il va pas se gêner. Hein. Non, il va pas s'embêter.
Pas besoin, voilà. Puisque pas un seul maire d'honneur.
Il a toute l'assemblée.
Il a toute l'assemblée. Il peut au contraire la faire voter, quoi. Et au champagne, en plus.
C'est mieux, ouais.
Il est trop remis, quoi.
Je viens de vous le dire, 1999, août 2004.
Toutes les lois bioéthiques.
2008, et la loi bioéthique de juillet août 2013.
Et là, cette fois-ci. 6 août 2013, cette fois-ci, la bombe aussi au Japon, le jour de la bombe nucléaire au Japon.
Et juste après, l'avertissement.
Ah, attends, ne brûle pas les étapes, l'avertissement.
Mais si, ce serait très bien.
Non, ce n'est pas le mal qui provoque l'avertissement, c'est le bien qui provoque l'avertissement.
On ne mélange pas les torchons et les serviettes, enfin.
C'est l'avertissement, c'est une pentecôte. Ça ne vient pas du mal.
Non.
Ça vient de la partie apostolique. Les apôtres étaient unanimitaires, et persévérantaires, cum Maria in Maria ora in oratione. Acte des apôtres, chapitre 1.
D'accord.
Okay. Les apôtres étaient une dans l'unanimité. Ils persévéraient à l'intérieur de Marie dans sa prière.
Ouais,
Et là, il y a eu la Pentecôte qui a soulevé Jérusalem et mis le germe de la destruction totale de Jérusalem dans les 40 années qui ont suivi. Ce jour-là, la Jérusalem a été condamnée à la ruine et à tomber en poussière totale. Il n'est pas du temple de Jérusalem, des murs de Jérusalem, des maisons de Jérusalem, il n'est pas resté pierre sur pierre.
Ça a été prophétique.
À cause de la Pentecôte. D'accord ? Et là, c'est pareil, il nous faudra combien de temps ? C'est la Pentecôte, une Immaculée Conception, dans la... il faudrait prendre les actes des apôtres en faisant le parallèle de ce qui nous attend, nous, avec les petits-enfants, Élie le prophète. Pour être dans l'unanimité, la persévérance dans la prière à l'intérieur de l'Immaculée Conception de Marie pendant environ une demi-heure. Si tu ne prépares pas à ça, eh bien très bien. Ça ne veut pas dire que tu vas exploser avec tous ceux qui vont s'effondrer dans le néant. Et ceux qui vont partir après l'avertissement, les pieds devant. Il y en aura quelques-uns, hein, mais pas tous. Tu seras sauvé quand même. Mais on te demande à toi d'être ceux qui font partie des petits agneaux, des petits croix fraternels de l'univers, qui font partie de la palpitation du cœur du roi, pour prendre autorité dans l'immaculée de conception, dans l'humilité substantielle, dans l'humilité incréée, quasi incréée, qui est celle du roi. Tu rentres dans son cœur, tu te nourris de l'amour qui est en lui, et tu as envie, dans toutes les cellules de son corps, dans la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, dans ta prière, dans ta messe.
Et bien on fait un mouvement ici,
et tout tu t'y habitues.
Là,
tu t'y habitues, et à ce moment-là, effectivement, le jour où le nombre est atteint, c'est bon, il va y avoir cette Pentecôte.
Hein?
L'avertissement ne vient pas du mal.
Mais c'est ce que je viens de dire.
L'avertissement vient
de nous,
ben du roi.
On reste ici, on reste ici, et pendant des mois et des mois, on jusqu'à temps que...
Il
est comme...
Mais oui, tiens.
Exactement.
Mais oui, jusqu'à temps...
Comment tu le vois? Allez, vas-y. Il faut faire des pèlerinages intérieurs.
Voilà.
Ça, c'est Saint-Ignace de Loyola. Il faut faire des pèlerinages intérieurs. Donc, si vous pouvez en trouver dans Catholique du Bois Net, il y a un site très, très bien... fait par Catherine, là, qui s'appelle Catholique du Net. Et dedans, il y a plein de pèlerinages intérieurs pour rentrer dans... Il se fit un silence d'environ une demi-heure.
Par anticipation.
Donc, il faut déjà arriver à faire silence pendant une demi-heure, c'est ça, Père?
Oui, mais un pèlerinage... Allez, vous ne savez pas ce que c'est qu'un pèlerinage intérieur. On va demander à Jean-Marc de nous faire un pèlerinage intérieur.
Voilà, donc ça veut dire comment...
Allez, si tu viens... Vas-y, fais-nous un pèlerinage intérieur et explique-nous ce qui se passe. Là. Et attention, la demi-heure va arriver dans 3 minutes.
Moi, c'est pas pareil.
Comment tu le vois?
Moi j'ai un voile tout autour de moi.
Oui.
Voilà, tout autour de moi.
Oui.
Ça part d'ici.
Le travail qui va avoir.
Ce voile-là part d'ici, comme ça, et ici. Et quand je prie, tout. Voilà, c'est spécial. Quoi. Je sais pas comment...
Oui, il y a un voile qui
voilà,
ici.
Là. Tout autour, et je vois au-dessus de ma tête.
Ici,
quand je suis comme ça, je vois au-dessus de ma tête.
Et là, qu'est-ce qui se passe là?
J'ai le ciel ouvert là.
Ah, c'est le sol, ouais, d'accord. Voilà. Et puis
et...
Faites-le en même temps, sinon c'est pas la peine. Et les gens me croisent, vous n'y arriverez pas.
Et quand je prie, voilà, et quand je suis en oraison et quand je prie, ça fait ça comme ça. Et ça ressort. Voilà, ça ressort.
Le ciel s'ouvre, à ce moment-là, quelque chose qui ressort, ouais, voilà, et qui s'ouvre aussi, voilà, à l'intérieur de toi. Voilà. C'est comme si tu étais dans la première cellule ou pas? Non, ça serait rien. Ouais, ouais. Je te pose la question.
Mais si, et si on est dans la première cellule, est-ce qu'on a les propriétés du père finalement?
Ça part comme ça,
les yeux. À l'intérieur du père.
Les yeux, il y a aussi comme ça. Voilà.
Ouais.
Bon.
C'est pour ça que par moment, ça me fait. J'ai mal. Enfin, de temps en temps, j'ai mal.
Désolé. Non, mais chacun a son petit schéma, si vous voulez. Son petit schéma mystique personnel. Il n'y a pas de. Moi, j'en ai 29 mecs qui sont venus se confesser à moi confidentiellement pour dire qu'il était grand monarque. Hein. 29. Avec des preuves. Hein. Des preuves surnaturelles, des preuves miraculeuses. Non, je me rappelle une fois, c'était. Oh, il était charmant. C'était un Africain tout noir, quoi.
Ah oui.
Grand monarque, moi, qui était tout noir, quoi.
Je suis le grand monarque, c'est moi.
Ah non, mais alors quelqu'un m'a dit, il faut absolument que vous le voyez, c'était Yasmine. Enfin, non, c'est pas Yasmine. Je crois que c'est Yasmine. Oui. Hein? Il faut absolument que vous allez voir Anne-Marie Piage. Absolument, c'est vous. Tellement de miracles autour de lui, c'est tellement. Et il faut absolument que vous la. Qu'il vienne vous voir, etc. Je dis, mais moi, si c'est le grand monarque, il n'y a pas besoin de moi. Il est noir, quoi. Bon, alors si il est noir, ça devient intéressant. Là. Parce qu'un grand monarque noir, j'ai encore jamais vu, quoi. Des grands monarques blancs, j'en ai vu, mais des grands monarques noirs, jamais. Alors, donc, le gars, il me dit quoi, et vraiment noir, quoi, mais vraiment noir. Le nez, hein, le nez vraiment, ça, magnifique. Bien écrasé. Et le gars, il... Bah oui, avec Gégé, avec Gérard. Ah oui, Gérard, à Versailles. Et c'est tellement de trucs. Gérard m'a dit, mais c'est bizarre, c'est vraiment étonnant. C'est quoi. Et puis alors, et lui, bon, donc il arrive à Domanova. Bon, vous l'avez vu, vous, à Domanova? Non,
vous nous en aviez parlé. Mais...
Donc il arrive à Domanova. Et bon, très bien, je lui fais célébrer la messe à Domanova. On discute, on parle, etc. Et il explique, moi, je ne peux pas le croire. Mais à chaque fois, je suis repris par ma prière. Le ciel qui dit, mais si, tu dois être fidèle. Et je dis, mais non, je suis noir, quoi. Elle me dit, si, c'est toi. Tu es le roi. Ah bon? Quand on a... Ah bon? Et ben, je dis, non. Et je chasse la tentation tout le temps, depuis 20 ans. J'arrête pas de chasser la tentation. Mais ça fait rien. Le ciel continue. Et alors, je fais mes courses. Je marche sur le boulevard Saint-Michel, à Paris, boulevard de la Reine, Versailles. Et à côté de moi, il y a la Sainte Vierge. Puis elle m'enseigne, elle dit des choses. Elle dit, tu vois, pour la prière, regarde. Elle m'enseigne pour la messe, comment faire pour que la messe soit vraiment sacerdotale. Voilà. Et puis ça me vient, ça c'est. Mais je peux pas la chasser quand même, je peux pas lui dire, allez, foutez le corps. Elle est là. Si, mon fils, si. Continue, c'est ça, c'est important. Tu ne peux pas comprendre, mais c'est pas grave. Et puis de temps en temps, il est pris par. Des fièvres intérieures, des chaleurs. Et je ne sais pas ce qu'il voit. Mais... Et puis il y a des parents. paroles qui sortent de sa bouche, comme ça. Toutes simples, mais non, peut-être. Simples. Je dis bon, d'accord. Je dis bon, ben, pourquoi pas. Après tout. Pourquoi pas, hein? Je l'ai pas encouragé quand même. Lui, c'était le 17e. Donc je l'ai pas encouragé. Le 18e, je me suis méfié. C'est 6 plus 6 plus 6.
Le 18e,
je me suis vraiment méfié.
Le 19e, alors. Le 19e, c'était le bon, mais ça, vous l'a.
Ah non, il n'y a, aucun qui était le bon.
Remarque.
Hein?
18, c'est 3 fois 6.
Oui, c'est ça. 18e, je me serais méfié. Mais là, c'était le 17e. Bon, puis c'était un peu gros quand même. Donc. Et là, je me rappelle parce que j'avais une Diane noire et jaune, là, de chevaux. Donc, je le ramène à la gare et on descend de ma montagne sur les chemins de terre. Et puis là, d'un seul coup, il tombe en transe. Il tombe en extase. Et, oh, puis devient comme une cycle-pole. Il s'est retrouvé en dessous du siège de chevaux. Alors je voyais sa tête qui dépassait là. Et il disait mon fils, je sais plus ce qu'il lui a donné comme oracle.
Non, mais c'est pas drôle.
Mais le pauvre, il pouvait rien.
Non, c'est terrible.
C'est atroce.
C'est terrible.
Ah ouais.
Et bon, alors moi je disais amen. Faut pas dire non dans ces cas-là. Hein. Faut quand même qu'il continue à célébrer la messe. Hein. Il faut que la messe soit célébrée par des bras cassés. Vous comprenez ça? Et plus c'est absurde, plus le Seigneur va passer par eux. Moi j'ai cru comprendre ça. C'est le Père Emmanuel qui m'a fait comprendre ça.
Écoute Patrick, je vais t'expliquer un songe que j'ai eu. Je ne l'ai pas eu il y a longtemps, c'était la semaine dernière. Alors voilà ce que j'ai vu dans le songe, Père Emmanuel. Voilà. Bon. C'est depuis que je suis tout petit que la Sainte Vierge m'a fait dire qu'il faudrait bien que je prenne quelques uns là-bas dans la montagne pour la prière, pour préparer pour préparer la parousie avec la Sainte Bambine. Alors, cette nuit-là, c'était la semaine dernière, en fait. Et donc, c'était le jour, hein, je ne me rappelle plus, je ne pourrais pas vous dire le jour. Le ciel s'est ouvert, Jésus est descendu, s'est retrouvé à côté de moi, et il m'a dit, écoute, Jacques, je vais te... Il s'appelait Jacques de son prénom de baptême. Je vais te... Là, ici, viens, on va sortir de ton ermitage, tous les deux. Et tu vois, voilà, regarde là, ici à côté du garage, là, ils sont une quarantaine, là, une quarantaine de jeunes gens, de tout ça. Voilà. Bon, écoute, tu choisis ce que tu veux et tu fais ce que tu as à faire avec. Alors, je suis passé avec Jésus, je vois le premier. Plus trop penser au Père Dominique, là non, ça non, pas question. Et celui-là, bon. Oui, enfin, je sais pas, on va y réfléchir. Ah, le troisième. Oh, lui, il est bien, là, il est équilibré, là, on peut s'appuyer sur lui, là. On pourra l'envoyer, on pourra lui faire confiance de lui. Puis il est bien formé, il a des vertus.
Et donc il prend le premier. Et là-dessus, il en prend 14. Il prend ceux qui sont bien, ceux qui. Avec eux, là, quand même, on peut faire quelque chose de. Ah, qui tient la route, quoi. C'est crédible. Alors Jésus, à la fin, ben, Jésus, mais.
et les autres. Ah non, je ne le prends pas. Non, ça, non, c'est déjà assez. J'ai déjà assez avec moi que d'avoir ces sabots à tirer. En plus, ce n'est pas possible. Non, je ne veux pas de ces bras cassés là.
C'est des pauvres types. Il y avait des pauvres types. Il y avait des gens style frais maximin, tu vois. Avec sa brouette, là. Sa frère Maxima, c'était un frère d'un calca. Mais ça, d'un calca, il raffolait. C'était un pauvre garçon, mais d'une extraordinaire. Alors, il y avait toujours des travaux à calca, hein. C'était à l'époque du père Emmanuel. Alors, il y avait un échafaudage qui était facilement plus haut que la crête ici du truc. Et donc voilà, mais dès que Maximin voyait un avion, ce qui était très rare, hein, là il n'existait plus. Quoi. Il courait pour voir l'avion. Quoi. À un moment donné, il était avec sa brouette sur l'échafaudage, là. Il y a un avion qui passe. Alors il a couru avec sa brouette pour aller vers l'avion. J'ai été voir Maximin. Ah, au pied de l'échafaudage, j'ai essayé, et là ça fait mal, il était broyé de tous les côtés. Enfin, Maxima, mais il fallait pas s'envoler avec la brouette.
Ah oui, il y a des numéros quand même. Hein.
Quand frère Maxima était arrivé à la gare, il avait cherché à Castres, frère Maxima était arrivé, il était un peu comme frère Francis, je sais pas si vous voyez frère Francis. Il avait accumulé des cartons, il a accumulé des papiers, il a accumulé, tu sais, les papiers chiottes, là. Il a accumulé des machins, il était arrivé avec des chiffons, avec des boutons, et avec des photos, avec des images, avec des revues, avec des ci-là. Et quand il a débarqué pour rentrer au monastère à Calca, eh ben, il est allé chercher la gare. Après, Maxima dit au père Manuel, il est allé chercher la gare, bien sûr, avec sa bagnole. Et le chef de gare lui dit, vous savez, votre monsieur, là, il y a un wagon entier. Alors, frère Maxime a dit, bah oui, c'est toutes mes affaires, c'est très personnel, c'est très important, tout ça. Mais si vous laissez une brouette, il était venu avec sa brouette.
Il s'est fracassé, mais la brouette est entière.
C'est très bien, frère Maxime. Vraiment, on vous accueille, bienvenue. Là, c'est formidable, vous avez. Le chef de gare, pour nous rendre un service, vous mettez toutes ces affaires-là, ici, à un endroit tranquille, et on ira le chercher.
Alors, il dit, bon, très bien, on débarque, les services de la SNCF débarquent à un endroit. Il dit, bon, il prend un mec, là, écoutez, si ça vous en dit pas, j'ai justement ici un petit bidon d'essence, vous versez dessus, et on peut... Frère Maxime, il a vu que toi, Benel, il m'avait tout brûlé. Il pleurait. Il restait plus que la brouette.
Il est attaché à ça.
Il est rentré au monastère comme ça.
Avec une brouette.
Frère Maxime. Maximum. Le maximum de pauvreté, disons. Ah non, mais il y a des flèches. Hein. Donc, à un moment donné, Jésus lui montre des bras cassés.
Aujourd'hui, ils n'ont plus de place dans les monastères.
Hein?
Jésus lui a dit, il faut prendre celui-là.
Non, alors il arrive à la fin avec Jésus. Il dit, bon, ben, je prends celui-là.
Alors Jésus me regarde. Est-ce que tu es sûr, Jacques? Oui, ça c'est certain.
Alors Jésus m'a dit,
bon, eh bien, d'accord. Entendu. Moi, je prends les autres. Ça m'a fait tout drôle. Mais pourquoi? J'ai mal choisi ou quoi?
Je prends les autres. Voilà, donc mon petit gars, mon grand monarque, il était sous la chaise de ma deux chevaux. Revenons au réel un peu. Au réel de la monarchie de la France. Ça, c'est très intéressant, vous savez.
Lui, il lévite à l'envers.
Hein?
Il lévite pas.
Ben non, il s'est effondré, il s'est retrouvé là. Je sais pas comment il a fait. Il avait ses jambes entre les deux sièges, tout tordu comme ça, et on voyait sa tête là. Bon. J'ai dit, quand ça a été fini, j'ai dit, mais que de réasseyez-vous, on va essayer de vous aider si vous voulez. Il dit, oui, ça me fait tout drôle. J'ai dit, mais je comprends. Hein. Vous êtes sûr que vous avez pris votre billet de train de retour? J'ai dit, oui. Ah, bon, ça va. Et il est reparti sur Versailles, si tu veux que je dise. Mais j'ai vu comme ça un Marocain aussi. Un Marocain, un arabe pur sang, tu vois, blond, les yeux bleus. Ah oui, non, mais il y a des Marocains qui sont blonds,
oui,
les yeux bleus.
Ah oui, 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 c'est vrai. Hein.
Et c'est moi qui l'ai baptisé, parce qu'il était musulman. Il était convaincu, c'était le grand monarque. Alors là, il avait des signes, mais alors c'est affolant. Bon, ok.
Okay. Voilà ce que c'est de mettre des vidéos.
Non, justement, il n'y a aucune vidéo sur Grand Monarque. Il n'y en a pas un seul. Ça, c'est un sujet que vous ne voyez nulle part. Et je comprends. Je comprends. C'est parce que si les gens savaient qui est Grand Monarque, je vous ai toujours dit, le Grand Monarque, vous prenez, si vous voulez vraiment rentrer dans, savoir qui est le Grand Monarque, il faut rentrer dans l'amour qui est à l'intérieur de son cœur et qui est un amour qui est apte, source de la Pentecôte du cinquième saut de l'Apocalypse à cause de son humilité substantielle. Et que si vous voulez une petite comparaison, si vous aviez été à l'époque de Jules César, empereur de Rome, et de Vercingétorix, si vous aviez été un petit peu au courant des prophéties, au moment où les murs du le temple de Jérusalem a commencé à être reconstruit, une dernière fois, vous saviez par les prophéties, par les nations d'Israël, par les mystiques, de la transmission infaillible des mystiques d'Israël, des pauvres de Sion, vous auriez su qu'il y a le roi d'Israël qui doit apparaître cette année-là. Enfin, à quelques années près, quoi. Et donc, vous aimez forcément. Personne ne s'est aperçu que c'était Saint-Joseph. Et même les apôtres, après la Pentecôte. Parce que Saint-Joseph, c'était, à l'intérieur de son cœur, son amour qui était rempli à état de source de toute la rédemption du monde dans le sang précieux de Jésus-Christ. 19 fois, oui, des myriades de fois. Et ça, de plus en plus, dans toutes les cellules de son corps, en va se communiquant avec toute la nature humaine, des hommes qui avaient existé jusque-là, des hommes qui existaient là, des hommes qui existeront toujours, mais à partir de ce qui émane de l'union hypostatique de Jésus dans son humilité royale d'Israël, et c'est lui qui a fait la conversion d'Israël, la conversion du mystère d'Israël, dans l'Immaculée Conception, puisque l'Immaculée Conception est sortie de lui. Comme l'épouse sort de son époux, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la Genèse. Bon, la détermination pour connaître Joseph à cette époque-là, il lui fallu prendre le char de feu d'Élie, le prophète, que nous fêtons aujourd'hui, pour rentrer à l'intérieur de cette porte d'entrée de l'incré du gré dans la rédemption, dans la rédemption incarnée du Bereshit, de l'union hypostatique du Messie. C'est ce qu'il a fait, Saint-Joseph, pendant 19 ans, y compris les 9 mois de sa gestation. Il lui fallut, à ce moment-là, rentrer avec le char d'Élie le prophète, prendre les rênes du char d'Élie le prophète, pour, dans l'union aux raisons messianiques de l'époque, pouvoir rentrer dans l'amour fou qu'il y avait dans le cœur du roi d'Israël. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas eu de roi d'Israël en Israël depuis 500 ans. puisque depuis Nabucodonosor, les fils d'Israël, des rois et des sias, avaient été tous... on a crevé les yeux de Sédécias et toute la descendance du roi a été anéantie, restait plus que les filles. Il a fallu attendre 500 ans plus tard le mariage de Marie et Joseph, vous le savez, ça je pense, pour qu'au jour du mariage, par alliance, selon la loi lévitique, nous on dirait aujourd'hui la loi salique, la descendance des rois, divin, du Seigneur sur l'humanité tout entière, il a été constitué roi par le fait même de son alliance. Il n'y a qu'un seul équivalent dans l'histoire, c'est en France, le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Puisque pendant 5 siècles, il n'y avait pas vraiment de roi de droit divin. Jusqu'à Louis XVI, il a fallu ce mariage. Qui a été d'ailleurs la cause profonde du déclenchement de la Révolution française par la City de Londres. Quand je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, il fallait vraiment, hein, que, il fallait vraiment être à la hauteur des profondeurs, des splendeurs de l'Esprit Saint dans l'union transformante aux 7e demeure du mariage spirituel messianique de Simeon à Nashi. Pratiquement, il a été le seul à savoir que le roi d'Israël était dans, commençait à entrer dans sa maturité. Et il s'est bien douté que c'était peut-être lui. Et c'est pour ça qu'il l'a fait venir dans le temple. Quand l'Immaculée, la Vierge, a eu 13 ans. Vous vous rappelez de ça? Il n'y en a pas beaucoup qui ont connu le cœur, qui ont connu l'amour, hein, qui ont connu la dignité. Métaphysique, on peut dire, hein, c'est ça. Hein, de Saint-Joseph comme roi d'Israël. Avant que Simeon et Nashi faisaient partie de peut-être 1, 2, 3 ou 4 qui peut-être avaient accès par le char de fidélité du prophète à l'intérieur, voyez, parce que des gens comme Simeon et Nashi, hein, on a des témoignages, hein, qui sont écrits dans le Talmud et Yerushalmi pour montrer que ce Simeon et Nashi, quand il était communiqué, quand il communiquait la doctrine messianique infaillible de l'Église par débordement, il était dans un état de transfiguration, hein, corporelle. Et vous pensez bien que donc, oui. C'est pas quand il voyait le visage de Joseph comme ça devant lui, qu'il dit, ben voilà le roi d'Israël. Non, c'est intérieur. Tu le connais parce que tu es capable de rentrer dans l'amour qu'il y a. Et si tu rentres dans son cœur, tu vois son amour. Là, tu fais l'expérience messianique d'une transfiguration qui n'a plus rien à voir. C'est une transfiguration qui est purement surnaturelle et chrétienne. Et ça, Simeon Anachi, quand il a pénétré, j'allais dire, par charité fraternelle, dans cette transfiguration infaillible des nazis d'Israël, il a vu que le temps était terminé. Le temps messianique était terminé. Eh bien, c'est pareil pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la connaissance du roi est une connaissance qui se fait par la voie de la pauvreté contemplative, par communion, par extase, par rassasiement. Quand vous avez soif, vous savez, vous êtes, vous buvez, ça y est, vous êtes, c'est pas rassasié, vous êtes...
Abreuvé.
Hein?
Étant. Désaltéré.
Désaltéré. Cette désaltération, c'est désaltéré dans quelque chose qui dépasse complètement tout ce qui a jamais existé. Même Saint François d'Assise n'a jamais connu ça. C'est le séraphique, Saint François n'a jamais connu ça. Dans l'au-delà qui brûle et qui ouvre les portes du roi de France, du roi du véritable Israël de Dieu. C'est comme ça qu'on le connaît. En tout cas, il est très pauvre. Hein. Et alors, si vous faites comme le père Emmanuel, alors je prends Louis XX, je prends l'autre là, je prends n'importe quel bougnoule,
et puis je choisis lequel c'est. Mon œil. Voilà. Et c'est bien de savoir qu'il fait partie de la cohorte de notre humanité d'aujourd'hui, qui circule librement dans le vaste communicant du oui, dans la divine volonté du monde nouveau. Ça, c'est bien de savoir. Et notre contemporain, et comme toujours, vous le savez, dans le corps spirituel, le corps primordial et l'inscription de la vie, nous avons par la foi et le fruit du sacrement la capacité, à chaque fois que nous allons à la messe, de venir habiter physiquement, substantiellement. Quand je dis substantiellement, ça veut dire réellement, quoi. C'est pas substantiellement au sens totalement, mais au moins un peu, quoi. Au moins, mais c'est réel. Le toucher est ontologique. Il est spirituel. Il est réel. Dans son cœur, et oui, et là, je finis par le reconnaître, puis avec sous le sceau du Saint-Esprit, d'en reconnaître l'odeur intérieure surnaturelle. Et je vois qu'elle dépasse toutes les saintetés qui se sont produites dans les étoiles du firmament jusqu'à aujourd'hui. Le soleil de l'humilité éclatante des rois fraternels de l'univers. Source assumée en Dieu, produisant l'ouverture des temps. C'est pour ça que je tiens beaucoup à dire, si on veut prendre un langage philosophique ou scientifique, allez, dire tachyonique. Parce que c'est la matière qui rentre dans un tournon spatial. Et ce tournon spatial, j'allais dire, a quelque chose d'extraordinaire, parce que comme il saisit la matière ressuscitée et glorieuse dans l'unique amour de Jésus, Marie et Joseph, peut y pénétrer aussi et le ramener à partir de nous dans le fruit des sacrements, en l'aménagement de l'espace, de la possibilité d'ouverture des temps. Parce que passer dans le temps de la résurrection au temps de la terre et du temps de la terre au temps de la résurrection, ce n'est pas du tout la même chose que de passer du temps de la terre au temps d'éternité, au temps de... ça n'existe pas le temps d'éternité, à la réalité substantielle de l'éternité de Dieu jusqu'au temps de la terre. C'est pas la même chose. Je parle à des gens qui ont l'habitude de vivre de ça. Parce que vous êtes quand même, en principe, catholique. Donc ça, c'est une habitude pour vous. Une chose est sûre, c'est que ce temps, c'est pour ça que j'aime bien tachyonique. Parce que tachyonique, si vous voulez, on fera une explication. Si c'est pas clair pour vous, je veux bien faire une explication tout à l'heure, une autre fois. C'est en même temps une explication épistémologique, et l'épistémologie, c'est la partie de la philosophie qui parle de ce que nous disent, de ce que peut nous dire aujourd'hui les vérités d'ordre scientifique, avec un langage scientifique, avec un langage épistémologique. Si je fais l'ontologie à partir de ce que je sais au niveau des photons, des tachyons, etc., par exemple, pour ce qui concerne la matière, et j'utilise la métaphysique d'Aristote sur la matière, voilà, très bien, en sagesse. C'est-à-dire en philosophie, en sagesse naturelle. Ça, on peut vous expliquer. Ça, je peux expliquer. C'est pas très difficile, en fait. C'est pas très difficile. On y reviendra, si vous voulez, si on a le temps demain. Si ça vous intéresse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans la royauté, il y a quelque chose de résurrectionnel. Donc le temps de la résurrection, c'est une durée, la résurrection. La résurrection de Jésus, il est ressuscité avec sa chair et son sang. L'Immaculée est ressuscité avec sa chair et son sang. Saint Joseph ressuscité avec sa chair et son sang. Saint Jean l'évangéliste est ressuscité avec sa chair et son sang. Enfin, il y en a quelques autres encore. Pas beaucoup. Ah non, Saint Pierre, non. Son corps, il est à Pierre de Rome.
Qui d'autre?
Jeanne d'Arc,
on hésite, mais quand même.
Ah non, Jeanne d'Arc, non.
Élie le prophète, il n'est pas ressuscité.
Il y a une petite partie de Jeanne d'Arc qui est vivante, mais elle n'est pas ressuscitée.
On le sait d'après
des... Il y a une partie
Sainte-Thérèse de l'Enfant
du cœur de Jeanne d'Arc qui est encore vivante, d'accord, oui. Qui exude encore une goutte de sang. Minuscule, très bien. Enfin, minuscule. Assez grande quand même pour qu'on puisse voir ça. Ça veut dire que ça n'est pas mort. C'est comme Élie le prophète. Son corps tout entier n'est pas mort. Et là, c'est une petite partie de son cœur qui n'est pas mort. Mais à la dimension du petit embryon au moment, la même dimension que le petit embryon au moment où le cœur est formé, c'est-à-dire 22e jour.
Donc les corps incorruptibles, là, en fait.
Non, c'est pas incorruptible, là, c'est l'ascension.
Donc,
ça rien à... oui, ça,
c'est quelque chose, j'en sais rien, mais tout serait-il que, peu importe, c'est pas un corps ressuscité, c'est son corps vivant, oui. Transverbéré, transglorifié, c'est tout. Mais il n'est pas mort. Cette partie-là du corps de Jeanne d'Arc n'est pas mort. Ce qui montre bien que sa mission est dans le corps spirituel.
Ah oui.
Venu d'en haut, à partir du corps psychique qui est le nôtre, réduit en cendres, ça va. Mais il y a une partie qui est le corps, qui relève du monde, oui, si vous voulez, du monde tachyonique, hein, c'est vrai. En fait,
qui relève
du corps incorruptible. La mission de la France, c'est un microcosme, c'est un microprocesseur de la mission divine de la France, cette petite partie. Et qui rappelle que les toutes premières cellules, tout de suite après, dès qu'apparaît une cellule dans l'embryon, qui n'est plus totipotente, et que devient une cellule différenciée, le premier organe qui apparaît, c'est des cellules cardiaques. Il y a quelque chose, hein, ça veut dire quelque chose. Parce que chaque être humain est une Bible ouverte. Et nous sommes la Bible, nous sommes dans notre corps l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ incarné. Nous sommes les rois fraternels de l'univers. Donc je reprends, le roi de France, ou la sainteté, si vous préférez, du véritable Israël de Dieu au milieu des multitudes. Notre mission d'aujourd'hui, hein, pas depuis longtemps, mais d'aujourd'hui sur la terre, dans le fruit des sacrements, c'est de rejoindre ce monde de la mort dans l'humilité quasi-substantielle du plus grand saint de la terre, prophétisé dans toutes les écritures. Parce qu'il est capable de récapituler dans son amour tout le corps mystique, vivant de Jésus entier et vivant, de manière incarnée dans son humilité parfaite. Et sa charité souffrait. Et il n'en sait rien. Mais il le fait. Quand je dis il n'en sait rien, mais il le fait. Ah ouais. Et c'est évidemment à partir de l'un qu'il le fait. Parce que l'un, c'est la relation à l'autre. Et voilà, et c'est ce qui se passe donc lorsqu'on rentre dans son cœur, qu'on voit cet amour. Qui dépasse toutes les amours de sainteté et de charité qui n'ont jamais existé sur la terre. On en fait l'expérience par l'oraison, parce que le souffle du Saint-Esprit ne peut que nous en faire l'expérience, si on persévère, si on est unanime, et qu'on le fait avec l'Immaculée Conception et le mystère de compassion de Marie glorifié dans le corps spirituel de Saint-Joseph. Dans l'au-delà de sa spontanéité, inspiration d'éternité. Là, il y a quelque chose qui se produit. Je peux entrer et voir spirituellement sous le souffle du Saint-Esprit ce qui se passe. Et je fais l'expérience de quelque chose, un tout petit peu seulement, de cet amour qui me dépasse totalement et qui est en lui, en état de, pas de plénitude, mais en état de surabondance. Puisqu'il doit surabonder dans l'instant de la demi-heure sur ta nature humaine tout entière. Et de manière tachyonique, parce que pas seulement sur la nature humaine des êtres vivants et 7 milliards d'aujourd'hui, mais aussi dans la nature humaine qui doit faire ressurgir et surgir de fait dans une actuation très mystérieuse, mais qui vient précisément de cette Pentecôte d'Immaculée Conception, même dans Adam, même dans ceux qui ont succédé à Adam, et tous les êtres humains, y compris ceux du déluge. Et puis aussi les êtres humains, de la nature humaine, qui doivent apparaître, qui n'ont pas encore existé, mais qui existeront un jour. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose de tachyonique. Et je dis bien tachyonique, parce que tachyonique, c'est de la matière vivante du corps spirituel donc, qui pourra en apparaître, à ce moment-là, bah, comme vase communicant, c'est-à-dire en tant que capacité de réceptivité, d'intériorité lumineuse et vivante d'amour, de grâce surnaturelle, permettra à l'Église d'être tout à fait elle-même. Et elle sera la porte, il y a quelque chose qui est à la porte du monde résurrectionnel, de la fécondité, de la responsabilité glorifiée dans la résurrection de la chair. N'oubliez jamais hein, que la résurrection de la chair, Jésus ressuscité, Marie est ressuscitée, Joseph est ressuscité, les trois sont ressuscités dans une seule chair glorieuse quand même. Mais la résurrection est quelque chose de créé. Et la preuve, c'est qu'il n'y avait pas de résurrection avant que Jésus soit crucifié. Hein. Donc la résurrection, le monde de la résurrection, le monde de la gloire de la résurrection, ce n'est pas le ciel. C'est créé. Le ciel de la vision béatifique, c'est un créé. Et le monde céleste, c'est-à-dire le monde de la gloire du monde angélique, c'est encore autre chose. Donc on emploie quelquefois le même mot pour cinq réalités différentes. Le paradis, les cieux, c'est le monde angélique glorifié. Le monde de la résurrection, le monde incréé de Dieu avant la création du monde, et enfin le monde de l'actuation et la disparition de la création du monde dans la glorification du Père et du Fils. On emploie le même mot pour cinq réalités différentes. Mais le monde de la résurrection, de la chair, bien sûr, on dit, mais quand on sera ressuscité, confondu, liquéfié, anastasié de la résurrection du Seigneur, de la victoire de l'amour surtout, porte ouverte complètement à l'amour et à Dieu et à l'éternité de Dieu. On est au ciel. Oui, si tu veux, mais c'est pas le ciel, ça c'est créé, ça. Ce qui nous intéresse, c'est Dieu. Parce que même ce monde de la résurrection doit se déchirer. L'agneau. Ça, c'est dans l'Apocalypse, ça. Doit se déchirer pour laisser place à cet torrent de la responsabilité incréée de Dieu dans les responsabilités d'éternité qui sont en nous dans le corps spirituel de la résurrection à partir de la foi de la terre. J'espère que petit à petit, pour vous, ça vous en va devenir familier, ça. Parce que quand même, après l'avoir entendu 100 fois, quand même, si ça ne veut plus rien dire pour vous, à ce moment-là, écoutez...
Je n'ai pas bien compris la différence entre... Alors, ciel, le ciel, c'est le
monde. Paradis, c'est l'origine. Adam et Ève.
Ah, c'est ça. D'accord, ça y est. C'est l'Éden.
Et Élie se trouve à la frontière, plutôt côté paradis, en ce moment. Il va revenir. Et dans le paradis, quelque part, il y a quelque chose du paradis originel d'Adam et Ève qui continue à donner sous forme écrite dans l'inscription de la première cellule de chaque être humain. Élie, le prophète qu'on fête aujourd'hui, Enoch, c'est pareil d'ailleurs, hein, qui est là-haut, qui, enfin c'est pas là-haut, mais qui lui est au sommet de toute l'hiérarchie angélique sur un trône qui est particulier, parce que c'est très particulier. Enoch, il faudra un jour qu'on fasse la mystique du deuxième témoin de l'Apocalypse. Enoch, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Hein. Parce que déjà, vous savez même pas ce que c'est qu'un tachyon et un corps spirituel, mais non, alors on va quand même pas aller. Sur Enoch, c'est pas possible. On ne peut pas faire des algorithmes mathématiques au sommet, si le gars ne sait même pas faire une équation arithmétique.
Un tachyon par rapport au photon, alors c'est plus petit que le photon, un tachyon.
C'est pas une question de petitesse, c'est une question de. C'est pas une question de petitesse.
Fragmentation de la matière.
Non.
Mais le photon, il n'y a pas de matière.
C'est une question de vitesse.
Photon, il n'y a pas de matière.
Mais le tachyon, mais quelque part, le tachyon. À ce stade-là, c'est toujours limite. On est à la frontière.
Réexpliquer un petit peu le...
Non, pas tout de suite. Là, on est sur autre chose, d'accord? De toute façon, vous pouvez aller sur le site catholique du net, tout ça est expliqué de A à Z.
Ouais, mais de toute façon, bon, après, on peut toujours... aujourd'hui, on l'appelle tachyon parce qu'on...
Ah non.
Non, c'est un concept théorique de la physique.
C'est un concept théorique de la physique.
Non, mais le tachyon, on l'a inventé.
Oui.
C'est mais il n'y a pas longtemps.
Comment ça, il n'y a pas longtemps?
C'est le 20e siècle qui a...
Il n'y a pas longtemps,
c'est-à-dire
tachyon, c'est il y a 10 ans, non?
Non, c'est de la relativité, mais c'est des concepts qui existent depuis longtemps, mais
qui ont été nommés.
Comme la science, la science emporte des notions de ce genre par hypothèse. Ça va ?
Oui.
C'est ça l'épistémologie. Mais cette hypothèse s'avère extrêmement réaliste.
Jusqu'à ce qu'il y ait une rupture épistémologique.
Jusqu'à Kion désigne, si tu veux, une particule hypothétique qui n'est pas matérialisée par l'expérimentation. Mais elle est nécessaire dans le système épistémologique de la physique actuelle.
Alors que le photon, on l'a quelque part, on peut le mesurer, matérialisé. Même s'il échappe à l'espace-temps. En fait.
Le tachyon, c'est la particule qui est à la fois espace et à la fois temps. Qui est les deux.
Il échappe sans échapper, le photon. Hein. Sinon, il ne serait pas repérable dans sa multiplicité. Hein.
C'est-à-dire qu'on plonge, ils ont plongé un ADN.
Ah non, mais l'ADN, ça va être autre chose, ça c'est de la matière vivante.
Mais ils ont montré qu'il y avait la trace photonique de la matière, même alors
qu'on j'espère bien. S'il n'y avait pas de matière dans l'ADN, ce serait complètement dingue.
Non, mais il y avait la trace photonique de l'ADN une fois qu'on avait enlevé l'ADN.
Il y a des traces photoniques de toute façon.
De toute façon. C'est le même algorithme. Là, on va faire parler notre mathématicien spécialiste d'algorithme sur cette question. C'est le même algorithme. Voilà.
Demain. C'est tes conclusions ?
Non ? C'est pas vrai ?
Si, c'est vrai.
On est d'accord ?
Oui, absolument.
Ah, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je le tiens, je ne lâcherai plus. Bon. Mais... Faut pas faire du snobisme avec ces trucs, hein. Faut pas être snob, mais faut pas être idiot non plus. C'est des choses qui sont simples en fait. Hein. C'est des choses qui sont simples. On y reviendra sur le tachyon si vous voulez, parce que je trouve que c'est drôlement bien ce tachyon, cette histoire de tachyon. Pour l'oraison.
C'est beaucoup refusé, hein, le lien entre science et foi. Quand on parle de ça, c'est
pour l'oraison, c'est très important. Tu as une vision comme celle que tu viens de dire, qui est purement épistémologique, c'est une partie. Mais tu as une vision qui est spirituelle du tachyon. Tu as une vision qui est spirituelle. Tu peux regarder le tachyon à partir de l'ontologie, ou de la métaphysique, ou de la contemplation, sagesse naturelle, philosophique, de la matière, comme possible. De toutes les actuations spirituelles d'amour dans les formes naturelles et surnaturelles. Et c'est comme ça qu'on sait ce que c'est qu'un tachyon. D'ailleurs. Bon, mais on y reviendra parce que vous verrez que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. C'est beaucoup plus simple, c'est très 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 simple en fait. Mais on n'est pas là-dessus. Pour l'instant, on est sur le roi, on est d'accord.
Bon.
Oui. Question pratique. Il est prévu de préparer un repas, je fais quelque chose.
Ah bah oui, on peut s'arrêter là. Oui, vous avez raison.
Non, vous pouvez continuer. Moi, je peux.
Et les parce que là, vous avez cité 5 Jérusalem, 5 paradis.
Le ciel, le paradis, tout ça.
Il n'y en a pas 7.
Ah, tout ça. Je ne me rappelais pas. Ça fait 6e tout ça.
Et non, c'est 5. Non.
Tout ça. Ça fait 6e. Mais c'est vrai que c'est important.
Et la Jérusalem.
Quand tu dis je veux aller au ciel, fais attention parce que le ciel, ça peut vous dire 5 choses différentes. Et tu peux prendre le 6e signification, qui est la signification absurde de la signification.
Là, vous n'avez pas dit le Jérusalem de l'Innocence crucifiée dans les sens. Ça n'en fait pas partie.
Mais c'est pas le ciel.
Oui, mais c'est pas une autre sphère un peu.
Ben oui, ça fait partie. Mais notre univers, c'est pas le ciel.
D'accord. Mais donc, on peut, si on n'est pas que le ciel.
L'Innocence crucifiée, ça fait partie de notre univers.
Du coup, si on compte notre univers, on peut en trouver 7.
Mais c'est pas le ciel, le mot ciel, c'est pas la terre.
Et alors, rappelez les 5.
Oui, mais l'innocence crucifiée, c'est pas la terre.
Ben si, l'innocence crucifiée, elle est Céleste Aminel Zambriner, premièrement. Oui, et deuxièmement, ils sont dans le temps. Donc tu peux pas faire plus la terre qu'eux. Sinon, ils seraient pas sous l'autel. Hein ?
On peut subdiviser
quand tu dis je vais aller au ciel, fais attention, parce que ça peut vouloir dire le paradis terrestre. Il y a un séraphin qui te bloque là, vas-y, et tu vas voir comment tu vas griller. Comme un cochon.
Ça, c'est dans la Genèse, il y a un séraphin qui est
devant. Il y a un séraphin, tu peux pas
et
revenir.
Ça n'a
pas ce que tu peux dire, écoute, il n'y a pas de péché originel, allez hop, je m'en fous, je retourne, nostalgie du paradis terrestre, en avant. Je vais aller au ciel, je vais au paradis. Et bien ce paradis, il a existé, il existe encore, si je puis dire.
Là, c'est préternaturel et adamique.
Par des voies préternaturelles et métapsychiques, tu peux essayer d'y rentrer dans la nostalgie du paradis. C'est ça. C'est, pratiquement, ça fait partie du New Age de faire ça.
Contrairement au surnaturel.
C'est les voies bodhiques, de l'anatma. Tu rentres dans la non-substance, tu rentres dans ce qui enveloppe l'anatma, c'est-à-dire le tout spatial. Et de là, hop, tu trouves un chemin pour, en fait, par la médiation des anges déchus qui encerclent notre univers dans lequel ils sont enfermés, frontières intérieures, et de là, avec eux, tu te laisses transporter par rayonnement dans le paradis terrestre. Ça ne peut se faire que par voie métapsychique.
Non, on dit préternaturel parce que...
À ce moment-là, tu deviens un bodhisattva éveillé. Un bodhisattva, c'est-à-dire un homme
parfait.
Un bodhisattva, c'est-à-dire un être éveillé parfaitement dans la lumière des énergies cosmiques. C'est le fin de l'épanouissement, de l'extase terminale, définitive et irréversible de la bodhéité.
Du Bouddha, tu
intègres tout. C'est les énergies, quoi.
Ah oui,
donc le ciel, quand tu dis je vais aller au ciel, ça ne veut pas dire je vais aller au paradis qui était à l'origine créé par Dieu pour être réel. Même s'il existe toujours, il est toujours là. Il est toujours là, le paradis terrestre. C'est pas là. Jésus l'a dit, celui qui regarde en arrière est impropre pour le royaume des cieux. La nostalgie du paradis terrestre, tu regardes en arrière. C'est fini, ça. La grâce originelle, c'est terminé. L'Immaculée Conception, c'est la cause finale du Christ à la croix vers toi. C'est pas un retour au paradis terrestre.
Non, mais c'est d'accord, ouais.
Voilà, donc le paradis, c'est pas le ciel.
D'accord.
Jésus ressuscite, Marie ressuscite, Joseph ressuscite d'abord. Avec Jésus, puis Marie, etc. Voilà, donc il crée un ciel de résurrection. C'est le ciel. Si tu rentres à l'intérieur de la résurrection de Jésus, Marie, Joseph, tu es dans le ciel, quelque part. Mais c'est pas la même
chose. C'est le ciel de l'ascension.
Elle a dit, je suis pas sûr.
Et non.
C'est pas le ciel de l'ascension.
Et non.
Ah bon?
Bah non.
Mais j'avais compris. Alors, c'est bien. Tant mieux.
La résurrection de la chair.
Là, dans ce dont vous nous parlez, c'est dans la résurrection de la chair.
Bah évidemment, je parle de Jésus ressuscité dans la chair, là. L'Assomption de Marie est ressuscité.
Vous avez le paradis originel, vous avez le vrai ciel dont vous nous parlez.
Le ciel de la résurrection, c'est un vrai ciel. Il existe. Le monde intérieur est créé, d'ailleurs, de la résurrection. C'est un monde auquel nous aspirons. Oui, on y aspire par désir, mais ce n'est pas le terme de notre espérance, du tout. Le terme de notre espérance, c'est Dieu en l'intérieur de lui-même. Dans le monde incréé qui est le sien, voilà le troisième ciel.
Voilà, d'accord.
Le quatrième ciel, voilà. Notre ciel, c'est le monde angélique. Le monde angélique, il est rentré à l'intérieur de la conception du Verbe de Dieu, dans l'Immaculée Conception, il a dû se ramasser, rentrer là, pour pouvoir rentrer dans l'hypostase des personnes divines. Et donc, le ciel du monde angélique, les neuf hiérarchies glorifiées, constituent ce qu'on appelle les cieux. Les cieux, c'est le monde angélique glorifié. Alors ça aussi, on peut dire, le ciel, c'est ça. On peut aspirer, hein, dans le miracle des trois éléments, à rentrer ou à faire rentrer l'acte pur de cette gloire, de ce ciel-là et de tous les cieux, en notre prière.
D'accord.
Et c'est pas la même chose que d'aller au paradis terrestre.
Oui.
Or, voilà. Donc, tu y es. Mais maintenant, quand tout est récapitulé, la disparition de la création, hein, tout entière, à l'intérieur de la glorification du Père et de la glorification du Fils, évidemment, il y a quelque chose de plus, puisqu'il y a la spontanéité et le Saint-Esprit est l'acte de tout ce que cette création est en puissance, dans sa plénitude de gloire, au-delà de la résurrection. C'est donc le ciel définitif.
Terminal.
Le cinquième.
Donc, pour emploier le mot ciel,
il vaudrait mieux trouver un mot pour chaque réalité, ça serait bien.
C'est le fait qu'il y a forcément... On dit bien paradis pour le premier, résurrection pour le second, etc. Et après, bon. Les cieux pour les anges, les cieux pour les
acteurs. Ouais.
En tout cas,
Bon. Ça, t'as bien intégré quand même.
D'accord.
Bon, c'était juste pour
une petite introduction.
Une toute petite récré, quoi.
On s'est arrêté à Emmanuel. Le tour était terminé à Emmanuel.
Bon. Vous êtes libre.
Et alors finalement.
Attendez.
Que fais-tu? Tu prends des couches?
Non, on prendra un tour de demain.
Non, mais c'est sympa. C'est beau, c'est.
C'est bien parce que c'est. Non, en fait, c'est-à-dire que comme.
Saint-Benoît, est-ce que le passage sera demain ou samedi au tombeau de Saint-Benoît?
Oui,
il y a un tombeau de Saint-Benoît par ici?
Demain, c'est vendredi.
Ah oui?
Après-demain, c'est samedi.
Saint-Benoît sur
Loire. C'est pas le
demain,
Saint-Benoît, c'est
après-demain,
le
après-demain, samedi. Il y en a qui seront partis. Jean-Marc sera parti samedi à
son arbre.
Oui.
C'est celui de la médaille?
Joseph,
ah, d'accord.
On ira.
Joseph, il a été au mois de mai.
D'accord. Samedi. Il est par là?
On peut.
Il part demain.
Déjà? Mais il ne faut pas.
Aussi,
il ne faut pas partir. Il faut rester jusqu'au bout.
C'est ça. Moi, je ne savais pas, mais je n'étais pas trop pour. Enfin, on me dit, il vient deux journées.
Tu n'étais pas obligé de partir. Enfin, père, il est obligé de partir.
Pas du tout.
Chacun est libre.
Tu peux rester jusqu'à dimanche, même. C'est, en principe, c'est prévu pour.
Ouais.
Pour que se fasse un triturum.
C'est chaud là ou quoi?
Pardon?
Comment?
C'est chaud là, ça.
Ah non, pas tout.
Ah, tu me rassures, ça.
C'est bien,
c'est bien, c'est un bon début. C'est un bon début.
D'ailleurs, à un moment, comme vous avez vu, j'ai eu un petit coup de barre.
Un peu débranché.
C'est pas que j'ai débranché, mais j'ai eu un coup de barre. Donc, de fait, j'ai débranché, effectivement. Mais j'ai quand même lutté pour
continuer avec lui. Non, non, mais ça fait partie du. Non, mais il a une voix qui est endormie. Hein, qui est endormie.
C'est le deuxième point, puis après, j'ai oublié de venir.
Il fait toujours des trucs intéressants. Et on le charrie un peu, mais.
Je pense qu'on ira à Saint-Benoît dimanche. Qu'on ira à Sainte-Montaigne samedi.
Voilà. On va me faire ça. Parce que si on y va,
mais n'empêche que quand
c'est possible.
C'est une source que moi j'ai vécu comme ça. Mais je vois que vous êtes beaucoup plus avancé. Mais celui-là, c'est comme.
Il y a
Saint-Benoît
si.
Mais oui, il y a Saint-Benoît, il y a le Saint-Benoît à les rendre vite.
Je ne me vois pas aller demain.
Non, pas demain.
On est en.
C'est bien le dimanche.
On a perdu une journée avec les
stars. Voilà. Et ça y est, ça, je vais essayer demain de trouver un quart d'heure pour me lever.
C'est pas en Bourgogne,
on se calme comme ça.
Et
puis après tout, ceux qui sont partis, dimanche, c'est pas grave, ils iront à Saint-Benoît quand ils voudront.
Et ça, je vais essayer de m'en occuper demain, de commencer à démonter, mesurer, démonter, parce qu'il faut faire comme il a dit, pour pas prendre là, pour prendre au compteur, parce que si on prend 7000 volts dans les narines, je pense que les cheveux vont quand même redresser. Même
pourquoi est-ce que ça marche plus, le truc, là? En Chalon, je connais un ingénieur
en voltaïque.
En voltaïque.
Ah ben,
faut
le faire venir. Il est à la retraite.
Ah, fais-le venir. Allez, alléluia.
Non,
terminé.
Non,
ma mission est terminée.
Il est hollandais. Il a été aux États-Unis.
Chalon, c'est pas loin d'ici.
Ici, il vaut mieux un truc comme ça, hein, mais à pétrole.
On a trouvé le système.
Donc lui, pour toute sa maison,
il aura toujours des frais.
Pour toute sa maison, il a des photovoltaïques partout.
Mais non,
EDF l'a emmerdé.
Ça peut être pas mal.
Est-ce qu'il serait d'accord de faire un petit aller-retour ici?
Pour faire
quoi le truc?
Pour faire deux opérations en fait.
Déjà faire tout
deux opérations très simples.
Il
faut l'outillage, c'est sûr.
Ouais, tu pourrais lui demander. Ouais. Et en gros, il y a pas de grande
hein. Ça, faire ce qu'on a dit à la voiture hier. Ça peut être
ça,
pas mal.
Ton gars, faire ce qu'on a dit avec.
Je vous mets en relation.
Et après, si.
Non, pas moi. Moi, je suis obligé.
Avec Patrick?
Avec le monsieur. Je suis le patron.
Si, ça peut être toi.
Et du coup, tu.
Non, mais je vous donne. Alors lui, il est croyant.
Moi,
il était très intéressé par tout ce qui se fait
actuellement.
D'accord, ouais,
c'est courageux ça.
Alors, un phénomène.
Reconversion alors.
Plutôt continuer.
En fait, son père, il est certainement baptisé.
Il est baptisé dans le luxe et les métiers d'art.
Et il a 80 ans.
Ah, il a 80 ans. Ça va, s'il n'a pas passé avec son petit.
Je demande ça. Non, mais 80 ans, il est en forme et tout.
En ce moment, il veut vendre à l'Arabie Saoudite parce que son grand-père a filmé le premier.
premier pèlerinage des hindous de l'Inde à la Mecque. Alors, à un moment donné, ils voulaient tourner le film chez moi. Je dis non, bah non, moi je suis une vraie chrétienne. En fait, et donc c'est un film qui date des années 20, qui montre le premier pèlerinage de musulmans de... Bon, bref. Donc c'est un film spécial. Alors, il veut essayer de vendre son film en Arabie Saoudite.
Là, il faut faire très attention.
Oui.
Terrain miné.
Vous veuillez aller tout seul,
j'ai dit. Terrain miné.
Ah oui, complètement, oui. Si vous voulez y aller tout seul. Bon.
Mais bon, qu'importe. En tout cas, oui, on peut.
C'est pour vous présenter
oui,
la personne.
Oui, ça serait pas mal, c'est... peut-être. Nous, on va mettre nos quatre, nos trois fils, là, nos deux fils.
Mais il est sympa.
Voilà, ça, c'est pas mal, ça fait pas mal.
Bon, je vois que vous avez le quartier libre, là, pendant un quart d'heure, si vous voulez prendre une douche. Ah, pour prendre une douche, vous allez...